les tournants qui nous attendent, les exigences nouvelles qui nous attendent demandent que nous mobilisions en nous des ressources spirituelles fortes, un lien plus intime, un lien renouvelé avec la nature et avec la vie. Et donc, la conférence que je vais vous faire aujourd'hui traversera, bien évidemment, tous ces thèmes qu'on a parfois tendance à séparer. Et au fond, qu'il s'agisse de spiritualité, d'art, de jardinage, de cuisine, de toutes ces différentes disciplines, aussi différentes soient-elles, sont, on le verra, toujours traversées par l'exigence d'une qualité de présence, l'exigence de se mettre au service de quelque chose qui parfois est plus grand que soi, et puis l'exigence de trouver un point d'appui à la fois ici-bas et au-delà. Alors, il y aura quand même un fil directeur qui sera celui de mon propos. Il se décline au fond en trois grandes parties, trois grandes dimensions, ce qui se présente aussi comme trois grandes voies dans la manière d'appréhender une vie qui se veut à la hauteur d'elle-même, une vie qui se veut plus au contact du vivant. Donc s'il n'y avait que trois mots que vous deviez retenir de toute cette conférence, ce serait le mot contemplation, le mot incarnation et le mot élévation ou transcendance. On va dire élévation. Et pendant toute cette conférence, je vais régulièrement passer de l'un de ces pôles à l'autre de ces pôles. À la fois pour mettre en lumière les différentes perspectives que recèlent ces dimensions, et en même temps pour vous faire sentir la complémentarité qu'il y a entre ces trois dimensions. Alors, j'ai choisi de commencer d'abord par une dimension assez existentielle, un peu moins théorique, moins conceptuelle. C'est vraiment de partir de ce qui relève de notre expérience la plus intime de notre existence, et puis d'avancer à travers ces trois axes, contemplation, incarnation et puis élévation. Et puis ensuite, j'en ferai le trajet en sens inverse, mais cette fois-ci d'un point de vue un petit peu plus philosophique et théorique. Très bien. Alors, commençons. On pourrait partir d'une phrase assez célèbre d'Héraclite, un penseur présocratique qui est au VIe siècle avant Jésus-Christ, qui nous dit ceci, en parlant du commun des mortels. Il dit « Même éveillé, il dort ». Alors bien évidemment, lorsque Héraclite dit ça, il ne s'agit pas du sommeil la nuit, lorsque nous rêvons, mais d'un autre sommeil qui caractérise l'homme à l'état de veille. Alors, de quel sommeil s'agit-il? Je crois que le premier sommeil dont il s'agit, c'est cette capacité que nous avons, tout en étant pourtant réveillés, à demeurer absents à ce qui est ici et maintenant. Et la première prise de conscience de quelqu'un qui rentre dans la voie contemplative, c'est mon première porte, c'est d'abord de prendre conscience de son absence. Pris dans le flot des activités quotidiennes, à la fois dans l'enchaînement des activités à faire, aussi nécessaires que soient ces activités, ou bien entraîné par toutes les sollicitations qui nous viennent tantôt de l'extérieur, tantôt des mouvements intérieurs, de toutes sortes de variations d'humeur qui peuvent nous assaillir, eh bien, il y a quelque chose en nous qui, tout en étant là, n'est pas pleinement ici, dans l'instant présent. Et c'est ce que les orientaux appellent quelqu'un qui est enfermé dans le mental. On croit qu'on est là, mais en fait, on est... L'image que prennent beaucoup les Indiens, c'est l'image du singe qui est dans une maison et qui regarde, qui n'a pas de soutier d'une fenêtre à une autre, d'une porte à une autre, tout agité. Et il s'agit, dans un premier temps, de calmer le singe. Voilà pourquoi, dès qu'on a cette exigence d'aller vers plus de vérité, de beauté, de justesse, eh bien, nous sommes amenés à retrouver d'une manière ou d'une autre le contact avec le silence, une certaine immobilité, en tout cas l'arrêt de l'enchaînement des activités, ne serait-ce que temporaire, et à certains égards aussi la solitude. Nous avons besoin de nous retirer un petit peu, et c'est ce que nous sommes parfois lorsque nous sommes enfants en vacances, nous rendons compte que notre vie était comme dans une grande machine à laver, et là, cela nous permet de prendre un peu de recul. Vous savez que dans le bouddhisme zen, l'une des pratiques centrales du bouddhisme zen s'appelle le zazen. Et le zazen consiste à, surtout en particulier lorsqu'il est pratiqué de manière intensive, à rester assis face à un mur, à ne rien faire pendant 8 à 10 heures par jour, et parfois plusieurs semaines. Ça paraît complètement fou. Alors un jour, on a demandé à un maître zen, mais quand même, vous ennuyez pas après tout ce temps face à un mur? Oui, parce qu'il ne s'agit pas de faire des incantations ou des prières ou de visualiser quelque chose ou de mobiliser des techniques respiratoires, pas du tout. Non, justement, il n'y a rien de faire. Donc on demande au maître zen, vous ennuyez quand même pas? Et le maître zen répond, mais bien évidemment que si, nous ennuyons. Si vous saviez comment on s'ennuie, c'est terrible. C'est terrible. Et il rajoute, mais justement, c'est exactement cela que l'on cherche. Et c'est cette chute qui demande à être interrogée, même si peut-être qu'on n'irait pas dans une pratique aussi radicale, c'est que notre tendance à nous, spontanément, c'est de fuir l'ennui, de fuir l'inactivité, de fuir le silence. Et là, eux, ils utilisent une stratégie exactement inverse, c'est de vouloir éviter cette tendance-là, de prendre le contre-pied, et de faire face et d'affronter cette peur de l'inactivité, cette peur du silence, et à ce moment-là, en effet, il se passe quelque chose qui n'est pas forcément agréable, qui n'est pas très zen, dans le sens usuel du terme, enfin, le sens que ça a pris dans le vocabulaire courant tel qu'on l'utilise. C'est quand même, c'est vrai qu'à ce moment-là, peuvent remonter à la surface des choses qui, au niveau émotionnel, au niveau de nos pensées, au niveau, ne sont pas forcément agréables. Et le but du zen, ou le pari du zen, c'est que il faut sortir d'une vie de fugitif, où sans cesse nous cherchons de nouvelles occupations, de nouvelles distractions, ce que Pascal appelait des divertissements, pour enfin faire face à ces peurs, faire face à ces parts d'ombre qui nous habitent, et pour les dépasser, pour les transcender. Et à ce moment-là, être capable de se poser dans l'être, et même, pourquoi pas, d'agir et de faire des choses, mais plus sur le mode de la fuite. En tous les cas, la première chose qui nous est demandée, c'est de retrouver une qualité de présence à ce qui est ici et maintenant. D'une certaine manière, c'est ce que fait le tennisman avant de servir. C'est ce que fait le musicien avant de jouer dans un orchestre. Après avoir essayé son instrument, essayer d'avoir retrouvé un petit peu la tonalité du morceau. Bref, il y a un moment où il arrête tout mouvement et retrouve une certaine immobilité, les quelques secondes avant que les premières notes soient jouées. Retrouver une qualité de présence, une qualité d'attention, pour en même temps être capable de se rappeler son intention. Qu'est-ce que je veux faire en fait? Pourquoi est-ce que je suis là? Qu'est-ce que je cherche à faire? Quel est mon but? Pour le tennisman, ça va être de décider par exemple s'il veut servir un service slicé qui va déporter son adversaire vers la gauche, ou un service à plat en puissance qui va déstabiliser son adversaire, ou bien un service avec un effet lifté qui va un petit peu perturber sur le revers de son adversaire, qui va peut-être lui donner le temps de monter au filet. Bref, il va essayer de trouver ce qui est son intention. Qu'est-ce qu'il veut faire? Et dans notre existence, on a besoin de prendre ce recul pour à la fois retrouver cette qualité d'attention et en même temps retrouver la question du sens, qu'on ne soit plus une mécanique désertée par l'esprit. Il y a une phrase très célèbre d'Heidegger qui dit « Tout fonctionne, cela est bien l'inquiétant ». Alors lorsque nos ordinateurs ne fonctionnent pas, c'est ça qui nous inquiète, qui nous est pénible. Et fort heureusement qu'il y a des choses qui fonctionnent dans notre existence, sinon c'est pénible. Mais le problème c'est tout. Lorsque tout fonctionne, c'est-à-dire lorsque nous-mêmes nous nous mettons à être dans une logique du fonctionnement, alors à ce moment-là, en effet, là il y a quelque chose d'inquiétant parce que c'est la vie en nous qui se retire. Nous devenons un être qui est peut-être efficace, qui produit beaucoup, qui gère bien, etc. Mais un être qui est désaffecté, qui a perdu le lien avec ses affects, avec son intuition, avec les forces qui l'habitent. ce qui peut provoquer éventuellement à la fois surmenage, épuisement, burn-out, tout ce qu'on veut. Donc la première expérience que vous avez tous fait, que je suis en train de rappeler, mais qui n'est pas facile parce que nous devons nous arracher à une tendance très forte à la distraction. Une distraction qui est liée également au lien que nous avons au regard des autres, qui nous sommes à devoir être quelque chose, faire quelque chose, à justifier de notre valeur, etc. Courir pour paraître, pour avoir, pour faire ce qu'il faut, pour ainsi capter l'attention. Et c'est important pour nous de se sentir reconnu, de se sentir désiré, etc. Mais on voit bien que cette course en avant dans laquelle il faut toujours justifier son existence, justifier de sa valeur, eh bien, nous amène à perdre ce qu'est le sens du verbe être. Donc la première étape de la contemplation, ça va demander d'arracher au déroulement de sa vie quotidienne des temps de pause, des temps de silence, à l'instar peut-être de ce que vous êtes en train de faire en ce moment, un temps où on se pose pour se mettre à l'écoute. Et au départ, lorsqu'on commence à se mettre à l'écoute alors qu'on est très agité, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, il ne se passe rien. Ça peut même être assez ennuyant et pénible, ce que nous rappelle ce maître zen. Lanza del Vasto, qui était un disciple de Gandhi, avait cette formule, il disait écoute, 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 et tu commenceras à entendre. Et c'est vrai qu'il faut une certaine patience. La patience qu'il faut face à une œuvre d'art. Il paraît que, en moyenne, les touristes, lorsqu'ils vont dans un musée, observent les œuvres entre 1 seconde et 2 secondes, 1 seconde 30. Force est de constater qu'il ne peut rien se passer en 1 seconde, 1 seconde 30. Alors on pourra dire qu'on a fait le musée un tel, mais en réalité, voilà. Pour qu'il puisse éventuellement se passer quelque chose, c'est jamais gagné, il faut passer au moins 10, 15 minutes à observer une œuvre, et peut-être, on n'est même pas sûr, peut-être se passera-t-il quelque chose. Autrement dit, ce que l'art demande de nous, c'est d'abord d'être capable d'attendre. Simone Veil disait, les choses les plus précieuses de notre existence ne doivent pas être cherchées, elles doivent être attendues. Et il y a quelque chose de l'ordre d'une patience qui est nécessaire pour que quelque chose se passe. Lorsque vous êtes assis près d'un arbre, en regardant les arbres, derrière vous, ça m'y fait penser. Vous voyez, voilà, il y a un arbre, bon, vous pouvez même le dénominer, c'est un chêne, c'est un hêtre, etc. Mais lorsque vous arrêtez d'essayer de mettre une étiquette dessus, de le dénominer, et simplement vous mettre en relation à sa présence, eh bien, si vous êtes patient, alors à ce moment-là, il y a quelque chose de la présence de cet arbre qui se manifeste en vous. Vous n'êtes plus dans un rapport de savoir, vous n'êtes plus en train de mettre une étiquette sur ce qui est à côté de vous. Vous n'êtes plus dans une relation de compétence, mais vous êtes dans une sorte d'abandon à une présence. Vous êtes dans une expérience qui est au-delà des mots. Et je crois que la voie de la contemplation, elle commence là. Et lorsqu'on utilise ce terme d'art, on pense souvent à des œuvres d'art, à des gens qui créent, qui font des choses. Mais l'origine et la source de l'art, je dirais que l'art commence là, avant même toute œuvre et toute création. Et je me permettrai pendant ma conférence d'ailleurs d'insister régulièrement sur le lien à l'art, parce que c'est quelque chose qui a une importance ici dans le domaine de la chouette, pour montrer la cohérence qu'il y a entre la vie, la nature et l'art. Eh bien, avant qu'il y ait des œuvres d'art, il y a d'abord un artiste. Et avant que l'artiste soit inspiré, avant qu'il crée quelque chose, qu'il produise une œuvre, il y a d'abord une expérience du réel. Il y a quelque chose qui demande de lever un voile, d'être capable d'avoir une sensibilité exacerbée vis-à-vis de ce qui est en face de nous. Et ce qui est en face de nous, d'abord, c'est ce qui est, c'est le réel qui est là. Que ce soit des êtres humains, que ce soit la nature en tant que telle, que ce soit. Bref, il y a quelque chose qui demande une attention particulière à l'expérience, et pour cela, il faut mobiliser une qualité de présence et passer de ce que le philosophe Bergson appelait de la vue à la vision. Et Bergson dit, si nous savions, si nous regardions le réel tel que nous pourrions le voir, alors à ce moment-là, chaque portion du réel pourrait être comme un tableau vivant qui est en face de nous. Et le rôle de l'art, pour Bergson, ce n'est pas d'ajouter des objets au monde, ce n'est pas qu'il manquerait quelque chose au monde, il faudrait qu'on fabrique, qu'on crée des choses pour, parce que la réalité serait déficiente, qu'il manquerait quelque chose. Non, pour Bergson, le rôle de l'art, c'est qu'étant coupé de cette expérience vivifiante au contact du réel, eh bien de nous prendre la main pour nous réinviter à regarder le monde autrement. Je prends parfois cette image. Vous voyez, lorsque, imaginez, vous allez au cinéma, vous êtes arrivé en retard, il y a déjà tout le monde qui est assis, qui regarde l'écran, vous voyez le faisceau lumineux qui part du fond de la salle, qui vient se projeter sur l'écran. Vous savez que, voilà, vous avez 10 minutes de retard, vous êtes dans le temps linéaire, et puis vous trouvez une place, vous asseyez, et puis à un moment, vous fixez votre attention sur l'écran, c'est-à-dire sur une petite portion finalement de la pièce qui est éclairée. Et puis lorsque vous passez un certain temps à fixer votre attention sur cet écran, eh bien assez rapidement, vous êtes pris par ce que vous êtes en train de voir, et à ce moment-là, vous oubliez le temps linéaire, vous n'êtes plus la question de est-ce que vous êtes en avance, en retard, etc., ne se pose plus. Vous êtes pris dans une histoire, vous êtes pris dans un univers, vous êtes pris dans une ambiance qui va susciter en vous peut-être des émotions. Donc cette petite portion de réel est venue capter votre attention, vous hypnotiser, et vous êtes pris dedans. Et quelque chose peut se passer, de plus ou moins fort, selon la qualité, bien évidemment, de ce que vous regardez. Et bien, d'une certaine manière, pour Bergson, ce qui se passe ici avec l'écran du cinéma, c'est ce qui pourrait se passer avec n'importe quelle portion de réel sur laquelle vous fixeriez votre attention. Alors justement, c'est beaucoup plus difficile. Pour le cinéma, voilà, c'est en mouvement, il y a une histoire, etc. C'est plus facile pour nous d'être captivés. Mais pour celui qui a développé cette qualité d'attention et de patience, à ce moment-là, c'est tout le réel qui se met petit à petit à danser, qui commence à manifester sa puissance, sa densité, sa profondeur. Voilà pourquoi aussi, il y a quelque chose qui est assez regrettable de voir comment, lorsqu'on encombre trop les jeunes enfants d'artifices, ou bien de choses qui relèvent d'une attention très intermittente, à l'instar des dessins animés ou des jeux informatiques, ils perdent peu à peu cette capacité d'attention, cette capacité à pouvoir se réjouir et à jouir de la puissance du réel. Et Nicolas de Staël avait cette très belle formule, il disait le coup reçu du monde. Et je ne veux peindre qu'après avoir reçu ce coup. On pourrait dire que d'une certaine manière, il y a dans cette expérience intense de la réalité trois grands chocs. D'abord, un choc esthétique. Ce qui est frappant lorsqu'on commence à porter son attention sur le réel, même, ça peut être même, alors bien évidemment on peut penser aux arbres, à la nature, mais même l'anfractuosité d'un mur, la pourriture sur un fruit, ce gris, il y a une beauté, si vous avez coupé une carotte, vous voyez, chaque rondelle, la disposition, ces cercles, il y a quelque chose de l'ordre d'une puissance poétique, d'une beauté du réel. Et ce qui est frappant, ce qui est saisissant, c'est de partir à la rencontre de cette beauté qui est là, qui nous attend d'une certaine manière. Donc d'abord, un choc esthétique. Le deuxième choc, je dirais que c'est le choc analogique. C'est-à-dire qu'on se rend compte à ce moment-là, c'est Baudelaire qui insistait beaucoup là-dessus, il parlait de ça, il parlait de correspondance, que le réel, au fond, n'arrête pas de parler de lui-même. Qu'il y a une résonance, au sens avec un E accent aigu, ce n'est pas la raison du scientifique ou du philosophe, il y a une résonance du réel avec lui-même. Il y a une poésie du monde, comme disait René Char, il faut habiter poétiquement le monde. Chaque portion du réel fait écho à d'autres dimensions, sur le plan physique, sur le plan psychologique, devient une source d'information, une source d'enseignement. Et les anciens puisaient beaucoup dans l'observation du réel, pour comprendre le monde, pour comprendre les êtres humains, pour comprendre les méandres de notre psyché. Il y a une analogie que j'aime beaucoup, vous voyez, c'est le lien entre, vous voyez, le mouvement de l'évolution de la vie, qui passe de la première cellule eucaryote, qui passe d'un monde aquatique, et puis petit à petit à des espèces terrestres, jusqu'à, par exemple, l'être humain, et puis le mouvement même de la première cellule de vie dans le ventre de la mère, et qui va passer par différentes étapes. Pour ceux qui font la psychodomicine, la fameuse loi de Henkel, vous connaissez. Eh bien, on va passer par les mêmes étapes. Notre vie commence dans un milieu aquatique, avec une première cellule qui va se multiplier, et puis à un moment, on va quitter ce milieu aquatique, c'est ce qu'on appelle la naissance. Et au départ, on ne bouge pas trop, et puis ensuite, on est capable de ramper un petit peu, et puis ensuite, on est capable de se mettre à quatre pattes, puis ensuite, on est capable de se mettre sur les deux jambes. Autrement dit, le mouvement de la phylogénèse, et puis le mouvement de ce qui relève de la vie d'un individu, tout d'un coup, se fait écho. Et dans le réel, les choses se font écho. Les nervures d'une feuille, toute l'hydrographie d'un paysage, le dessin de l'éclair dans le ciel, tout commence à résonner et à danser l'un avec l'autre. Et on peut comprendre à ce moment-là que quelque chose comme la poésie puisse à ce moment-là se mettre en marche, parce qu'on se met à l'écoute de cette résonance du monde avec lui-même. Donc un choc analogique. Et puis, le troisième choc, c'est le choc énergétique. Alors énergétique, je prends ici au sens originel, du terme grec, c'est ce qui nous met en mouvement, ce qui produit une dynamique. Et il y a quelque chose de l'énergie qui est dans le réel, qui est dans la plante, qui est dans l'arbre, qui est dans l'océan, qui vient rencontrer la dynamique qui est en nous, la vie qui est en nous. Et quelque chose de l'invisible qui est dans le monde, qui vient faire écho à l'invisible qui est en nous, et qui rentre à ce moment-là en résonance, qui rentre en diapason. Et il y a vraiment, véritablement quelque chose qui se passe au niveau de notre vitalité. C'est pas étonnant de ce point de vue-là que lorsque nous voulons nous ressourcer, lorsque nous avons besoin de remobiliser nos forces de vie, nos forces de résilience, eh bien nous essayons d'être le plus en contact avec le vivant, avec la nature, avec l'eau de la mer, avec la montagne, avec les énergies de la terre, etc. Donc la contemplation, c'est une voie qui va demander cette qualité de présence, d'attention, pour rencontrer le monde en sa présence, et non plus simplement en tant que chose. Je vous parlais d'Heidegger tout à l'heure. Heidegger est un philosophe qui va être très sensible à cette question. Et il va dire que, au fond, notre civilisation a eu tendance à aller très loin dans ce qu'il appelle l'oubli de la question de l'être. Qu'est-ce que c'est l'oubli de la question de l'être ? C'est le fait que on a tendance à se rapporter à ce qui nous entoure en regardant ce qui nous entoure d'abord comme des choses en tant qu'elles existent, en tant qu'elles occupent une certaine portion d'espace dans l'univers. Des choses qui nous sont soit utiles, soit inutiles, soit une proie, soit un obstacle. Autrement dit, qui nous mettent dans un rapport soit de savoir, et on essaye d'expliquer cette chose, on essaye de la décrire, on peut faire ça avec un objet, on peut faire ça avec une personne. Voilà, un tel, voilà, il est ingénieur, il a telle apparence physique, voilà ses caractéristiques comportementales, psychologiques, physiques. Donc on peut mettre avant un rapport de savoir, de connaissance, et ce que Heidegger appelle le rapport technique au monde, c'est d'abord déjà ça. Et puis, c'est aussi un rapport d'utilité, c'est-à-dire qu'on regarde les choses sous l'angle de ce que ça peut nous rapporter, sous l'angle de son utilité. Alors, ça a été précieux pour l'humanité d'avoir ce rapport-là au monde, pour survivre, pour développer un certain nombre de progrès des savoirs, de progrès techniques, d'améliorer son confort de vie, etc. Mais le problème, c'est lorsque ce regard-là devient le mode exclusif ou privilégié de notre rapport et de notre relation au monde et aux autres. Et c'est ça que Heidegger appelle la déflagration technique. Parce qu'à ce moment-là, on perd la relation à l'être, c'est-à-dire ce qui fait que l'être qui est en face de moi ne se réduit pas à une portion de matière, mais elle est d'abord une présence qui ne se réduit pas à son utilité, à son efficacité. Et l'humanité a, en tous les cas, dans l'histoire de l'Occident, mais tout ceci s'est généralisé à la Terre entière, est entré dans un mode où il privilégie avant tout, ou voire de manière quasi exclusive, ce rapport d'efficacité, de productivité, de rationalité, de rentabilité dans le rapport au monde. Vous savez, c'est une petite anecdote que raconte souvent Pierre Rabhi, lorsqu'il a acheté son terrain en faisant un prêt à la banque dans les Cévennes. Il invite un de ses amis, parce que sa maison se retrouve sur une grande colline, et puis on voit toutes les plaines aux alentours, avec des belles forêts, et puis un jour, alors qu'un ami à côté de lui, il lui dit « Tu as vu, c'est incroyable !» Parce qu'il était émerveillé par la beauté des lieux, et puis à ce moment-là, son ami lui dit « Ah oui, c'est incroyable, t'imagines tout ce bois, toutes les sternes, ce que ça pourrait nous rapporter !» Autrement dit, l'un était dans un rapport de contemplation, d'émerveillement devant le réel, et l'autre était dans un rapport d'utilité, dans un rapport économique. Encore une fois, la question, ce n'est pas de diaboliser sur le rapport d'utilité et d'économique, c'est aussi quelque chose qui fait partie de notre existence et qui a aussi sa place, mais le problème, c'est que lorsque ça prend toute la place, et lorsque ça prend toute la place, eh bien, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de disponibilité pour accueillir ce qui fait la profondeur du monde. Je citais Simone Veil tout à l'heure, elle a aussi cette formule, elle dit « Il y a très peu d'êtres qui ont la conscience que les choses sont. » C'est-à-dire que, vous voyez, c'est pas être comme ci ou être comme ça, c'est il y a quelque chose de l'ordre de l'être, de la présence. Si tout d'un coup on se mettait dans le noir, qu'on fermait les yeux, tout d'un coup, au moment où vous perdez la vue, vous avez fermé les yeux, vous sentez l'énergie, la présence de la personne qui est en face de vous. Et lorsqu'on se laisse à s'abandonner à cette expérience, il se passe quelque chose qui commence à prendre de l'épaisseur, de la densité. Ça, c'est la voie de la contemplation. Alors, bien évidemment, l'être humain n'est pas amené seulement à regarder, à s'émerveiller, à goûter, à savourer. Vous savez que le mot sagesse, ça vient de s'apérer, hein, c'est savourer, goûter. Il n'est pas simplement celui qui est amené à goûter, à celui qui, comme y a invité Épicure, à déployer sa sensibilité pour accueillir chaque instant, chaque moment présent, dans toute sa puissance, comme si on avait un festin devant nous. Là où les êtres humains ont souvent tendance à regarder leur présent comme quelque chose d'insipide, d'où l'émergence du désir, c'est-à-dire de l'expérience d'un manque qui fait qu'on se projette vers un avenir. Et tant que l'être humain n'est pas capable d'avoir aiguisé sa sensibilité pour accueillir l'instant présent, eh bien à ce moment-là, cette insatisfaction va faire lever le vent du désir, c'est-à-dire essayer de différer à plus tard un plaisir. Bon, bah, en ce moment, je serre les fesses, je fais le dos rond, j'attends. Et plus tard, je serai heureux. Plus tard, j'aurai le temps de faire ce que j'ai vraiment envie de faire pour être bien. Et Épicure dit que ça, c'est une impasse existentielle. Nous devons nous réinstaller dans le présent. Et pour cela, il va falloir aiguiser notre capacité à accueillir ce moment présent et à découvrir dans chaque instant ce festin qui est devant nous. Et plutôt que de cracher dessus, plutôt que d'en être aveugle, eh bien, de le voir. Et c'est clair que la voie de la contemplation invite à s'installer dans le temps présent. Et toutes les philosophies qui insistent sur cette... et les pratiques d'ailleurs, qui invitent à retrouver cette qualité de présence au présent. D'ailleurs, en français, c'est très beau, hein, ces trois mots. Vous voyez, le présent comme cadeau, le présent, la présence, être là, et puis le présent qui est le ici et maintenant, ici, le maintenant. Et toute la philosophie d'Épicure, d'ailleurs, pourrait se résumer à ces trois. Si vous voulez être heureux, alors il faut, pour Épicure, être capable d'être présent à ce qui est ici et maintenant, et alors à ce moment-là, vous découvrirez qu'il y a un cadeau qui est là devant vous. Et à ce moment-là, le vent du désir pour Épicure ne se lève plus parce que vous êtes comblé à chaque instant, instant après instant. Et donc, il y a une grande profondeur et une vérité de ce type de philosophie. Et bien évidemment, des pratiques qui invitent, des pratiques de pleine présence, toutes les pratiques du corps, que ce soit le yoga, le qigong, qui nous aident, qui nous donnent des outils pour essayer de réinvestir cette capacité de présence et de rencontre approfondie avec le réel, sont précieuses. Mais notre vie ne peut pas prendre uniquement cette direction. Il y a en l'homme une volonté aussi d'agir, de faire, de créer, de devenir, de réaliser. Et ça, on entre dans ce qui est le deuxième visage de la vie spirituelle, le deuxième visage d'une vie qui veut être prise au sérieux. C'est ce que j'appelle la voie de l'incarnation, la voie de la réalisation. Alors, d'abord, un petit peu comme l'enfant qui, dans un sentiment de gratitude face au cadeau qu'il vient de recevoir, je vous disais tout à l'heure, le réel devient à chaque instant un cadeau, est-ce que ça anime en nous un sentiment de gratitude? On n'est plus simplement dans un rapport de consommation avec le réel, mais dans un rapport de communion. Et alors le passage du verbe être au verbe faire va se faire ici, si vous voulez bien, depuis cet être qui a pris son ancrage dans le réel. Vous voyez, bien évidemment, on n'est pas obligé d'être dans l'être pour faire. Et d'ailleurs, c'est un des drames de notre civilisation, c'est qu'on met le faire avant l'être. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et Maître Eckhart avait cette très belle formule, il dit, mais on n'est pas là d'abord pour faire ou avoir, on est d'abord là pour être. Et dans ce que je vais vous proposer dans ce deuxième temps, autour de l'incarnation, je ne voudrais pas parler du faire en général, mais qu'est-ce que c'est qu'un faire qui a d'abord trouvé son ancrage et son lien avec l'être? Et on vient de voir que lorsqu'on s'est pleinement placé, on a jeté l'ancre, comme dirait Nietzsche, au cœur de l'être, et bien à ce moment-là, notre rapport au faire va être différent. Et là, le faire, il commence comment ici? Il commence d'abord depuis l'expérience des trois chocs dont je vous parlais et d'un sentiment de gratitude. Bernard de Clairvaux disait, le drame de l'homme, c'est son ingratitude. Et lorsque vous recevez un cadeau, lorsque vous avez le sentiment de gratitude, à ce moment-là, vous avez envie de rendre. Il y a le mouvement par lequel la vie, après l'inspire, expire, après l'avoir reçu, veut rendre. Et la création, si on commence par là, le mouvement par lequel l'être humain tente de créer, créer au sens large, bien évidemment, il y a la création au sens de la création artistique, et puis à la création au sens large, ça peut être toute forme de création, lorsqu'on cuisine, d'une certaine manière, on crée, lorsqu'on monte une entreprise, on est en train de créer quelque chose qui n'était pas et qu'on fait advenir. Eh bien, la création, elle, à ce moment-là, elle naît depuis ce cœur incandescent que nous avons rencontré et qui vient nous animer, nous donner l'énergie. On sent qu'on est dans son axe, qu'on est dans son centre. Et lorsqu'on sent qu'on est dans son axe et dans son centre, on a beaucoup plus d'énergie que lorsqu'on est coupé de son axe ou de son centre. Regardez la puissance que cela donne ici. Lorsque quelqu'un vous écoute, mais alors qu'il est décentré, qu'il n'est pas axé, vous voyez très bien la différence avec quelqu'un qui vous écoute et qui est centré et qui est axé. Et donc, l'acte qui consiste pour l'artiste à créer, à produire une œuvre, a d'abord sa racine et sa source dans cette expérience silencieuse du réel. Et à ce moment-là, il peut y avoir cette réponse au réel. La vie au dehors est une force créatrice, mais la vie au dedans de nous est également amenée à se mobiliser, à se déployer dans sa force créatrice. Chacun est amené à sentir en lui qu'est-ce qui doit surgir, qu'est-ce qui doit être créé à partir de sa sensibilité, à partir de ce qui fait l'épaisseur de sa propre histoire. Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Dans quoi est-ce que je peux œuvrer qui fasse que il y a quelque chose qui est ajusté. Et savoir ce qui est ajusté avec nous a demandé, vous voyez, cette relation-là. Et donc, ce qui va relever du travail de l'art, au sens large, le travail de la création pour nous, ça va être cette réponse de notre vie à la vie. Un petit peu comme le sourire de l'enfant face au sourire de sa maman. Il y a la création. Bergson dit que cette création, c'est le but même de la vie. Bergson a un très beau texte dans lequel il dit « Quel est le but de la vie ? Eh bien, c'est de créer. » Autrement dit, il n'y a pas une finalité qui est décidée à l'avance et que vous devriez réaliser. Il n'y a pas non plus le rien et le vide, c'est-à-dire une mécanique absurde qui relèverait du déterminisme et du hasard, qui serait le mot de la vie, non. Ce qui caractérise la vie, dit Bergson, c'est de créer. Et qu'est-ce qui nous... Bergson, dans le même texte, dit ceci, quel est le signe que nous sommes en phase avec cette puissance créatrice qui nous habite? C'est la joie. La joie n'est pas le but de la vie, mais c'est ce qui accompagne un être qui est en train d'amener au dehors ce qu'il portait au-dedans. Donc la joie est pour, dans votre existence, le signe que vous êtes ajusté à ce vers quoi vous êtes. Qu'est-ce qui va advenir? Qu'est-ce qui va être créé? Vous ne le savez pas, et d'une certaine manière, le réel, et pour Bergson, l'absolu lui-même ne le sait pas. Et pour Bergson, il y a votre vie, mais il y a aussi la vie en elle-même. Ne sait pas à l'avance ce qui va être produit. Mais la vie, c'est l'effort en vue, à partir des circonstances qui sont celles-là, à partir des cartes qu'on a entre les mains, à partir des obstacles qui sont les nôtres, d'essayer de composer et d'essayer à la fois de maintenir la vie, de la perpétuer et de créer. Et c'est ce mouvement-là que nous sommes amenés à épouser. La deuxième dimension de cette incarnation, c'est ce que Jung appelle le principe d'individuation. Nous avons également, comme dirait Nietzsche, à devenir qui on est, à réaliser ce qu'est sa vocation, réaliser ce qui fait partie de sa nature, réaliser ce qui est ajusté à nous, à se découvrir, à s'individuer. Et là encore, il y a quelque chose de l'ordre d'un arrachement, parce que ce mouvement-là ne peut pas venir de l'extérieur. Il y a des forces de résistance, à la fois au-dedans et au-dehors, qui viennent empêcher cette logique de l'individuation, de devenir qui l'on est, de se réaliser selon sa nature. Force extérieure, sociale, parce que la société... Ce qu'elle attend de vous d'abord, c'est votre fonctionnalité. C'est que vous vous intégrez dans le groupe. C'est que vous épousiez les valeurs, les croyances, les idées, les coutumes du groupe auquel vous appartenez. Il y a un désir de conformité. Et c'est clair que cette logique du principe d'individuation est une logique qui est dangereuse pour le groupe et pour la communauté, qui est très frileuse, et la communauté, ça commence déjà par ses parents. Or là, il y a quelque chose qui demande à sortir d'une logique qui nous a été très précieuse depuis toute notre enfance, qui est une logique mimétique. L'enfant, pour apprendre, il imite ses parents, il imite ses frères et sœurs, il regarde comment font les autres, il apprend beaucoup de choses, il progresse comme ça. Mais il y a un moment où, dans notre existence, on est amené à sortir de cette logique purement mimétique, ou ce qui revient au même, une logique de stricte opposition, ce que font parfois ces adolescents, je fais le contraire d'eux pour essayer de me trouver. Mais le contraire d'eux, ce n'est pas forcément moi. Et sortir de cette logique mimétique ou de cette logique d'opposition pour essayer de trouver ce qu'est sa voie, son chemin, sa destinée, non pas le destin, ce n'est pas quelque chose qui est écrit d'avance, mais tracer sa voie. Donc il y a des forces de résistance contre lesquelles il faut lutter, et c'est clair que lorsqu'on est très obsédé par le regard des autres, par le qu'en dira-t-on, mais qu'est-ce qu'ils vont penser, etc. C'est clair que c'est un frein pour notre existence. Et lorsque vous allez commencer à faire des pas qui sortent un petit peu de ce qui est normatif, parce que toute société a besoin de normes et de normatifs, c'est pour ça qu'il ne faut pas reprocher à la société de nous normer, d'être normatif. Simplement, il faut, de manière mûre, être capable de transgresser, à certains égards, cette dimension parfois normative. Et puis, il y a des forces de résistance interne. Parce que notre moi conscient, là je reprends des choses que Jung explique très bien, notre moi conscient, lui, ce qu'il veut d'abord, c'est la sécurité. C'est le confort. Il veut être pépère. Il veut se prémunir du danger, et le confort, et donc le conformisme. Parce que si on est le mouton noir dans la société, on va avoir des problèmes. Donc il faut un certain minimum de conformisme, on veut du confort, on veut de la sécurité. Or, la logique par laquelle l'être humain cherche à se dépasser lui-même demande de sortir de sa zone de confort, demande de prendre des risques. Je crois que Clémence et Emmanuel qui savent ce que c'est, la prise de risque, de monter un tel projet, qui peut paraître complètement fou. Et c'est toujours complètement fou. Emmanuel m'a recité la formule de Mark Twain, il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose de l'ordre d'une folie, de l'ordre d'une prise de risque qui peut être importante lorsqu'il s'agit de se surmonter, se dépasser, trouver son chemin, déployer cette logique de l'individuation. Et cela passe bien évidemment certainement par l'exploration de ce que Jung appelle sa part d'ombre, l'exploration des nœuds, des mécanismes inconscients qui font que nous nous mettons nous-mêmes dans des formes d'impasse. Et vous savez qu'en psychologie, quelqu'un qui ne comprend pas très bien les causes qui animent ses actions et qui suscitent de la souffrance a tendance à alimenter les causes qui produisent sa souffrance. C'est contre-intuitif, mais c'est comme ça. On s'enfonce un peu plus et il y a un cercle vicieux. D'où la nécessité, à un moment ou à un autre, d'aller y voir au-dedans pour lever certains nœuds, lever certains malentendus, lever certaines de nos névroses, au fond, qui nous empêchent de nous déployer. Et nous traînons tous des choses depuis notre enfance. Logique de l'individuation. Création, logique d'individuation. Et puis, troisième élément, troisième dimension de cette incarnation, c'est que lorsque vous êtes au contact avec ce qui fait la sacralité de l'être, avec la profondeur de l'être, lorsque vous êtes sorti d'une logique de profanation de la vie en le réduisant simplement à son utilité, à son ustensilité, etc., eh bien, à ce moment-là, ce qui naît, c'est le désir de prendre soin du monde, de prendre soin du vivant. Non, ce n'est pas simplement de prendre soin de son être, mais aussi de prendre soin de ce qui est autour de nous, des personnes autour de nous, de la vie autour de nous, des plantes, des arbres, des animaux, etc. Il y a quelque chose qui, dans notre relation à l'être, et là c'est la dimension éthique que je suis en train d'évoquer, il y a quelque chose qui, dans notre relation à l'être, va découler de cette compréhension, qui n'est pas une compréhension intellectuelle, mais qui est vraiment dans sa chair, une compréhension de ce qui fait la sacralité de la vie. Et à ce moment-là, il y a un certain nombre d'actes qu'on ne peut plus faire. Il y a quelque chose qui ne passe plus. Il y a quelque chose qui nous demande à nous d'honorer la vie. De sortir simplement d'un rapport de pouvoir, de puissance, pour entrer dans ce rapport de sympathie avec le vivant. Alors, sans gommer le tragique de la vie. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que nous ne vivons pas dans l'absolu. Nous vivons dans le monde relatif. Et le monde relatif, et c'est précisément l'une des choses que l'on rencontre dans cette voie de l'incarnation, c'est qu'il y a la résistance du réel. Il y a la résistance de la matière. Et l'artiste doit composer avec cette résistance de la matière. Notre vie doit composer avec les résistances du monde, les résistances sociales, nos résistances internes, etc. Il va falloir naviguer à travers celle-là. Et puis, il y a quelque chose de l'ordre du tragique de l'existence, au sens où, par exemple, la vie se nourrit de la vie. Et si on imagine un monde idéal dans lequel, pour pouvoir survivre, on n'ait pas besoin de supprimer la vie, peut-être, mais n'empêche, ce n'est pas ce monde-là dans lequel on vit. Vivre, c'est toujours supprimer de la vie. Rien que dès notre naissance, quand on commence à sucer le sein de sa mère, on est déjà en train de pomper l'énergie d'un autre, et déjà dans le ventre de la maman. Et ensuite, même si on est végétarien et qu'on mange des légumes, eh bien, il y a de la vie qui a été sacrifiée. de la vie végétale, mais aussi de la vie animale, mais microscopique, toute petite, qui est aussi de la vie. Et donc, c'est ce que Gandhi appelait la beauté du compromis. Nous avons à trouver le compromis le moins mauvais dans un monde qui est un monde relatif, qui n'est pas un monde absolu. La première règle de l'ashram de Gandhi, c'était de respecter la vie. Mais la première chose qu'il disait à ses disciples, attention, on ne peut pas respecter de manière absolue cette règle. Parce que nous vivons dans le monde relatif, et dans le monde relatif, il y a quelque chose de l'ordre d'un tragique qu'il va falloir assumer, mais on essaye que le compromis d'aujourd'hui soit moins mauvais que le compromis d'hier. On reviendra là-dessus, le monde, de ce visage de notre vie, qui est la voie de l'incarnation, c'est d'assumer de rencontrer les obstacles. Sinon, on devient ce que Hegel appelle la belle âme, celui qui a toutes sortes de velléités, qui a toutes sortes de projets, qui voudrait faire toutes sortes de choses, mais qui ne les réalise jamais parce qu'il ne veut pas affronter toutes les résistances et les obstacles du réel. On peut être très velléitaire comme ça. Ce qui compte, dit Gandhi, c'est les pas que l'on fait, les pas réels dans la vie réelle, avec la part d'imperfection et des échecs que l'on va rencontrer, plutôt que quelqu'un qui se met à rêver 40 milliards de projets incroyables, mais qui ne réalise rien. Et la peur du réel, la peur de la vie, en fait, la peur du danger, la peur du risque, eh bien, peut nous amener à être tétanisés et à être dans l'infertilité, dans la non-créativité, et ça nous rend malheureux, parce que notre être a besoin de se déployer. L'engagement donc éthique, mais c'est aussi l'engagement éthique, c'est aussi la rencontre, je dirais, des injustices de ce monde, de ceux qui profanent le monde, de ceux qui blessent le monde, de ceux qui font le mal dans ce monde. Et c'est vrai que l'histoire humaine est traversée par la sueur, le sang, les larmes, les cris, et cette histoire se continue sous nos yeux. Et lorsqu'on commence à ouvrir les yeux, lorsqu'on est devenu sensible à la beauté du monde, à la splendeur du réel, à la sacralité de la vie, à la sacralité de toutes choses, eh bien, le prix à payer, c'est qu'on est encore plus blessé. Parce que quand on n'est plus un être désaffecté, mais un être avec des affects, on est d'autant plus blessé par les injustices, les horreurs, la vilainie, le mal qui habite ce monde, au dehors, mais aussi au dedans de nous-mêmes. Parce qu'on sent bien en nous que le mal qui est au dehors nous habite aussi au dedans. Et que la différence, c'est une question de... C'est pas tant une question de nature que de degré, au fond. Alors, bien évidemment, il y a dans ce monde des assassins, des truands, des salauds, etc. Mais ça, c'est la cerise sur le gâteau du mal. Le gâteau du mal, c'est beaucoup de choses. Le gâteau du mal, c'est le mal qui est commis par les gens bien, par les gens qui veulent le bien, par le silence coupable de ceux qui laissent faire, par l'indécence du décalage entre les valeurs que l'on brandit et puis nos actes. Quelqu'un qui nous le faisait beaucoup sentir, c'était l'abbé Pierre. Vous connaissez tous certainement ce passage célèbre où l'abbé Pierre s'énerve en disant, face à des journalistes, qui lui disent « Oui, mais regardez, ces gens-là sont très violents, ils ont posé des bombes, etc. » Et là, l'abbé Pierre s'énerve, il dit « Il y a certainement plus de sang dans vos mains d'inconscient que chez le désespéré qui a pris les armes. » Et vous qui dites que vous êtes pour la paix, qui embrassez vos enfants la nuit, quel rôle en réalité vous jouez dans la vilainie du monde, à travers vos incohérences, votre inconsistance, votre aveuglement, votre refus, votre déni face à ce qui se passe. Et toutes les pires horreurs dans l'histoire n'ont pu se passer parce que la majorité en laissait faire. La majorité n'ont pas voulu voir. Et donc c'est aussi cela que l'on rencontre dans son existence, Il y a un double aveuglement au fond. Il y a un premier aveuglement qui est l'aveuglement qui nous coupe de la beauté, de la splendeur et de la sacralité de la vie et du monde. C'est un peu comme les prisonniers au fond de la caverne de Platon. Ils sont coupés de la lumière. Mais il y a une deuxième chose, il y a un deuxième aveuglement, c'est l'aveuglement devant l'obscurité du monde. Les prisonniers au fond de la caverne n'ont pas conscience, parce qu'ils ont pris l'habitude, n'ont pas conscience de cette obscurité. Moi, il y a un exemple que je reprends souvent parce qu'il m'a vraiment frappé, ça a été une gifle que je me suis prise. C'est au début du XXe siècle, dans les États du Sud, aux États-Unis, on organisait des lynchages de Noirs. Et pour que tout le monde puisse assister à ces lynchages, on fermait les écoles pour que les enfants puissent y participer. Et il y avait même des cartes postales pour pouvoir envoyer à ses amis pour dire « voilà, j'y étais ». Mais tous ces gens qui assistaient à ce lynchage, ils avaient profondément le sentiment d'être des gens bien, d'être des bons chrétiens. Autrement dit, notre degré d'inconscience face au mal qui est pourtant là, devant nos yeux, qui crève les yeux. Vous connaissez en français la différence entre sauter aux yeux, crever les yeux. Crever les yeux, c'est ce qu'on devrait voir, mais que pourtant on ne veut pas. Notre degré d'inconscience face à ce qui crève les yeux est tel qu'on ne peut plus, à l'instar de l'anecdote que je viens de vous raconter, ne pas se demander, mais qu'est-ce qui est en face de moi et que je ne vois pas ? Qu'est-ce que je ne veux pas voir et qui est pourtant là devant moi ? Et qui conduit à une telle passivité de ma part. Et je ne crois pas, plus j'explore ce phénomène, je ne crois pas que nous soyons davantage prémunis aujourd'hui, même nous qui vivons en France aujourd'hui, de cet aveuglement, que d'une certaine manière ces gens qui étaient face à ce spectacle de la charge. Et donc il y a quelque chose en effet qui blesse et qui fait mal. Et là, il y a un danger. Il y a un danger, c'est que lorsque vous commencez tout d'un coup à voir et à porter votre attention, par précisément votre volonté de prendre soin du monde, porter votre attention sur les ombres de ce monde, sur les vilainies du monde, sur votre propre inconséquence, ou votre propre lâcheté ou petitesse, vous pouvez vous laisser absorber par lui, parce que le mal hypnotise. C'est-à-dire qu'aussi vrai soit votre diagnostic sur les horreurs de ce monde, aussi vrai soit ce diagnostic, si vous ne gardez pas le contact avec le lumineux, vous risquez d'être emporté par lui et sombrer. Comme le dit très bien Lao Tzu, ce n'est pas en maudissant les ténèbres qu'on fait jaillir la lumière. Et donc, la seule manière de ne pas sombrer devant le spectacle de l'horreur qui est en face de nous, c'est de toujours veiller à garder, d'abord et avant tout, le contact avec le lumineux, avec ce qu'il y a de ce qui ne se réduit pas justement à ce qui aux actes de profanation du monde. Il y a une très belle histoire que raconte un poète anglais qui s'appelle Samuel Coleridge. C'est un poème même qui s'appelle La complainte du vieux marin, qui raconte l'histoire d'un marin qui est avec son équipage non loin des terres du sud vers l'Antarctique, et puis ils sont sur le retour, ils vont enfin revoir leur famille, ils sont contents, etc. Et puis soudain ils sont pris par une tempête glacée, l'horizon se couvre, il y a des vents violents, c'est la nuit, ils ont peur de mourir et ils sont sur le pont toute la nuit, et puis lorsque arrive le matin, tout est gelé autour d'eux. Le bateau ne peut plus avancer, il est bloqué dans la glace. Et ils espèrent que le soleil revienne, que ça fonde, mais les jours passent, leur vivre commence à diminuer. Et donc tout le monde sent la mort venir. Et l'un des marins, la seule chose qui lui redonne un peu, lui permet de surmonter sa peur et ses angoisses, c'est de voir un petit albatros qui est là, qui vient sur le pont et qui manifeste encore quelque chose de vie, le dernier filet de vie qui l'habite. Et touché par cet albatros, qui est la dernière vie à laquelle il peut donner un peu, rendre un peu de la vie, eh bien, il partage un petit peu son quignon de pain avec lui, alors que pourtant, mais comme il sait que de toute façon, c'est qu'une question de temps, eh bien, il donne un petit peu à manger cet albatros, et cet albatros, tous les jours, revient avec lui. Et puis un jour, l'albatros se met à voler au-dessus de lui. Et on entend la glace craquer et commencer à se séparer. Et l'albatros guide le capitaine du bateau pour pouvoir se frayer un chemin entre la glace. Et à ce moment-là, tout le monde est heureux sur l'équipage. Lui, il est fier sur l'albatros. À nouveau, l'espoir renaît. Ils vont peut-être pouvoir rentrer là où il pensait que dans sa vie, symboliquement, c'est très fort. Tout était foutu. De toute façon, c'est le désespoir total. Il n'y a plus rien. Tout d'un coup, à nouveau, il y a quelque chose de l'ordre d'une rédemption. Quelque chose de l'ordre d'une... Et l'oiseau trace son chemin. Et là, enfin, le bateau est libéré de ces blocs de glace et peut à nouveau naviguer pour retourner à la maison, retourner à la terre natale, revenir à son origine. Mais là, l'un des matelots tire dans l'oiseau, qui tombe raide mort, ensanglanté sur le bateau. Et là, le marin est désespéré. Et cet oiseau va le hanter. Et vous voyez, pourquoi est-ce qu'il y a deux choses là-dedans? Pourquoi est-ce qu'il tire sur cet oiseau pourtant qu'il lui aura montré le chemin? Un, parce qu'il y a l'absurdité du mal. Voilà, c'est comme ça, il avait envie de viser. Et puis deux, parce que, voilà, maintenant on était libérés. L'oiseau ne servait plus à rien. Et donc on voit bien, à la fois, c'est de logique, à la fois cette logique qui est l'esprit de lucre et de domination, la logique de l'intérêt qui anime l'être humain, et puis en même temps, l'absurdité parfois du mal, sans cause, pour rien. Sans pourquoi. Et vivre sa vie, s'incarner dans ce monde, c'est donc rencontrer la souffrance, la sienne et celle des autres, c'est rencontrer les résistances, c'est rencontrer les moments de désespoir, les moments de, voilà, où c'est difficile, on a l'impression que que la situation est bloquée. Et à ce moment-là, vous voyez, tout ce qui peut nous rattacher encore à la vie, au vivant, qui nous permet encore de croire encore, de maintenir ce lien avec une vie qui peut redémarrer. C'est, comme dit très bien un poème chinois, au bout de la nuit, il n'y a pas la nuit, il y a le jour. Et parfois, la traversée de la nuit peut être longue, mais il y a le jour. Donc là encore, peut-être l'exercice d'une autre forme de patience dans l'épreuve. Voilà, tel est le lot de nos vies. Je vois que vous avez tous un certain âge, comme moi, enfin un peu plus. Et donc, vous savez ce que c'est, que la vie, c'est pas facile. Il y a quelque chose qui est éprouvant, il y a quelque chose qui est difficile. Il y a du tragique. Il y a du tragique qu'on ne peut pas gommer, qu'on ne peut pas simplement expliquer avec des parce que, avec des justifications, etc. Elle demande à être dépassée. C'est la grande histoire de Job. Hein. Vous savez, lorsque Job, il lui arrive tous les malheurs, il perd sa femme, ses enfants, sa richesse, son troupeau, alors que c'était un homme exceptionnel, un homme qui était décrit comme étant très pieux, un homme qui était généreux, un homme qui avait toutes les qualités morales qu'on pouvait attendre d'un être humain. Il lui arrive tous ses malheurs. Et il trouve que c'est injuste, que ce n'est pas mérité. Et ses amis lui disent, alors qu'ils ont même du mal à l'en connaître, parce qu'il n'a plus rien, il a tout perdu, il est défiguré par la maladie, ses amis lui disent, mais forcément, toutes les choses sont rationnelles, il y a une rationalité des choses. Et puis Dieu n'est pas injuste, il n'y a une raison, tu as certainement dû faire des saloperies, si t'arrives tout ça, il y a une cause. Et Job te refuse, il dit non, il n'y a pas de cause, je n'ai rien fait de particulier, il n'y a rien qui mérite qu'il m'arrive toutes ces horreurs. Et toute l'histoire de Job, ça va être de passer de cette obsession du pourquoi, la colère qu'il ressent parce qu'il ne comprend pas pourquoi il lui arrive tous ces malheurs, ce tragique qu'il rencontre dans l'existence, à un pour qui. Cette logique qui consiste à aller du pourquoi, c'est la cause, à un vers quoi. Tout d'un coup, derrière l'éternel pourquoi, de rencontrer non pas une réponse qui serait parce que ceci ou parce que cela, mais le mystère d'un grand oui, qui va le libérer de ce poids. Il va rencontrer derrière le tragique quelque chose qui est au-delà du tragique, qui relève bien évidemment d'une expérience métaphysique et spirituelle, mais qui ne se résout pas de manière linéaire. Ça fait penser à cette formule d'Einstein qui dit ce n'est pas, on ne résout pas un problème avec le même niveau de conscience que celui qui l'a créé. Il y a une rupture de niveau qui est nécessaire, un saut de la conscience. Et pour Job, ça va être cette expérience-là. Et je crois que dans nos existences, il y a de l'inattendu, il y a une forme de gratuité. Tout à l'heure, je parlais de gratitude, une sorte de gratuité dans l'être qui se donne à nous sans que forcément le mal que l'on vit n'est pas forcément mérité, mais les biens qui nous viennent ne sont pas non plus forcément mérités. Vous savez que pour Pascal, c'est même la condition pour faire l'expérience du bien. C'est d'avoir le sentiment que ce n'est pas mérité. Si vous prenez l'exemple du jeune homme qui sort du train et puis qu'il y a sa bien-aimée qui l'attend sur le quai de la gare, sa bien-aimée la cherche du regard, il la voit, le chercher du regard, et puis soudain, le regard de la bien-aimée se porte sur lui et son visage s'illumine. Et là, il est touché, il est ému. C'est incroyable, parmi toute cette foule, elle me cherche moi et il y a son visage qui s'illumine en me voyant. C'est incroyable. Il ne peut sentir que c'est incroyable et être touché, être ému par cette scène que parce que, précisément, il n'estime pas que ce qu'il est en train de vivre est un dû, que c'est mérité. S'il pensait que c'est un dû, il dirait, c'est normal, je suis tellement exceptionnel, je suis tellement extraordinaire, c'est normal qu'elle réagisse comme ça. Parmi toute cette foule, je suis comme un dieu, quoi. Donc c'est normal qu'elle me cherche d'une part, du regard, et puis qu'en plus, son visage s'illumine en me regardant, parce que je suis extraordinaire. Mais à ce moment-là, il ne le vivrait pas comme un don, mais comme un dû. Et ce ne serait pas une expérience de gratitude. L'amour ne peut être reçu, dit Pascal, qu'à condition de ne pas s'en sentir digne. Et on ne regarde pas ce qu'on aime de haut. C'est pour ça que ça se fait plus beaucoup aujourd'hui, je crois, mais celui qui va demander en mariage sa bien-aimée ne monte pas sur une table. Il met un genou au sol, il se met en dessous. Il dit, voilà, est-ce que tu veux bien te marier avec moi ? Et normalement, il a conscience que si cette jeune femme est raisonnable, elle devrait dire non. C'est complètement fou hein, de faire un pari pareil. De faire la promesse que je vais vivre ma vie avec toi, etc. Je te connais pas à ce point-là non plus, et puis en plus, comment tu vas évoluer, comment tu vas devenir, etc. C'est complètement fou. Et donc, si cette jeune femme est raisonnable, elle va dire « t'es très gentil, t'as plein de qualités », mais non, non. Même pour toi, pour te sauver, parce que moi aussi, je ne serais pas capable de te rendre heureux. Mais comme elle est complètement folle, comme il y a quelque chose qui, dans l'amour, relève d'une grâce inattendue, elle va dire oui. Elle va dire oui. Et lui, il ne va pas considérer que c'est normal. Ça va être le plus beau jour de sa vie, parce que c'est inattendu. Et donc, il va sauter au plafond. Enfin, s'il y a un plafond, en tout cas, il va sauter de joie, parce que ce qui n'aurait pas dû arriver est arrivé. Elle a dit oui. Et ça, je crois que dans cette scène, il y a quelque chose de... Alors Pascal, lui, le transpose dans la relation à Dieu. Pascal dit « Je ne suis absolument pas aimable. Je suis mesquin, petit, lâche, tout ce que vous voulez. Et puis, je suis tout le temps dans une forme de comédie que je me joue, etc. Donc, je ne suis pas aimable. Mais la grâce de l'amour, de la rencontre de l'amour divin, c'est précisément d'être aimé par un Dieu en plus. » Même pas une jeune fille, par un dieu, alors que je ne mérite pas d'être aimé, je ne suis pas aimable. Mais ce que dit Pascal dans la relation à Dieu, nous le vérifions déjà dans la relation de l'amant et de l'aimé. Et je dirais que nous la vérifions dans notre rapport à la vie. Soit tout est dû, soit tout est don. Et à ce moment-là, ce n'est pas du tout la même vie. Incarnation. Troisième temps, élévation, transcendance. Alors, tout le mouvement de l'incarnation, c'est ce qui place notre vie dans le temps, dans la durée, dans l'épreuve du temps, dans la réalisation dans le temps, dans ce qui en nous est aussi un être pour la mort, qui nous mène vers la vieillesse et puis vers la mort. Et puis, le troisième temps, le temps de l'élévation, c'est tout ce qui... toute cette dimension de notre vie qui pointe du doigt vers ce qui est au-delà du temps, ce qui relève de l'éternité, ce qui est libre à l'égard du devenir. ce qui est libre à l'égard de la mort. Nous sentons en nous, je reprends Pascal, nous sentons en nous qu'il y a un désir infini qu'aucune réalité de ce monde, qu'aucune réalité finie ne peut combler. Seule une réalité infinie peut combler un désir infini. Nous sentons en nous que cet individu que je suis devenu, ce principe d'individuation, je me suis réalisé de cette manière-là, je me suis exprimé de cette manière-là, ma vie est devenue comme ça, ma personnalité est devenue comme ça, etc. Nous découvrons à ce moment-là, enfin, nous sommes appelés à découvrir qu'il y a quelque chose en nous qui est libre à l'égard de l'être que nous sommes devenus. Quelque chose de beaucoup plus vaste en nous. Qu'il y a, comme disait Lao Tzu, il y a en moi plus grand que moi. Le moi qui dit moi n'est pas le vrai moi, dit Lao Tzu. Et il s'agit de partir à la conquête de cette dimension en nous qui n'est pas quelque chose, qui n'est pas une forme d'individuation, mais qui est une multitude de potentialités, qui ne se réduit à aucune particulière. C'est la découverte de ce que Jung appelle le soi. Cette réalité qui transcende notre être dans le temps, notre être devenu, et qui transcende le devenir, qui transcende la mort. Qui n'est pas simplement ce qui en nous va devenir compost, mais ce qui en nous est lumière et appelé à devenir stella, l'étoile. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette expression du chemin vers Compostelle. Vous voyez, c'est deux mouvements de la vie. Ce qui nous va vers le compost, ce qui nous va vers stella, l'étoile. Et ces deux. Et là, la voie de l'élévation, la voie de l'incarnation, c'est, je dirais que le champ des traditions spirituelles et traditions métaphysiques insiste beaucoup sur cette dimension-là. Ça va être de découvrir dans sa vie une dimension qui transcende la relation à moi, la relation à ce qui est dans le temps, à ce qui devient, à ce qui se désagrège. La relation à l'esprit. Alors, tantôt on parle, comme chez les bouddhistes, de la nature fondamentale de l'esprit, ou tantôt, comme dans les traditions monothéistes, de la rencontre de ce qui est plus intime à moi-même que moi-même, qui est le divin en moi. Et dans le vocabulaire chrétien, ça va être de rencontrer le Christ en soi, même d'accoucher du Christ en nous. Et là, il y a quelque chose qui dans cette dimension métaphysique, nous amène à nous libérer de la loi de la causalité. Vous voyez, dans ce monde, on est soumis à la loi de causalité au niveau de la matière, au niveau physique. Notre corps physique est déterminé par la génétique de nos parents, mais aussi par ce qu'on a mangé, ce qu'on a bu, bref, tout ce qui relève ensuite de l'épigénétique, de nos comportements, de nos modes de vie. Et donc, notre être physique, tel qu'il est là, est le fruit des causalités physiques qui ont agi sur nous. Sur le plan psychique, c'est pareil. Nos idées, nos convictions, nos opinions sont le fruit de notre éducation, de notre environnement, de nos lectures, de nos rencontres. Notre état émotionnel aussi est déterminé aussi par toutes sortes de causes psychiques. Et là, il s'agit de rencontrer une dimension qui est au-delà du physique, au-delà du psychique, qu'on appelle proprement une dimension spirituelle. Chez les Grecs, c'était le pneuma, à côté du soma, de la psyché, il y avait le pneuma. Chez les Latins, c'est à côté du corpus, à côté de l'animus, il y a le spiritus. Et c'est une dimension qui est caractérisée par ce qui est au-delà de ce qui est causé, de ce qui est conditionné, de ce qui est déterminé. La source véritable de notre liberté, ce que les stoïciens appelaient notre liberté intérieure, c'est précisément ce qui en nous est libre à l'égard de l'être que nous sommes devenus. Je ferai remarquer au passage que c'est l'idée de respect suppose cette dimension-là. Respecter quelqu'un, c'est quelque chose qui ne dépend pas de ce qu'il a fait ou de ce qu'il est devenu. Sinon, on ne respecterait que les gens qui sont bien, les gens qui sont sympas. Or, le respect est quelque chose qui, sur le plan moral, relève de quelque chose d'inconditionnel. Par exemple, lorsque vous êtes dans un magasin, vous ne voulez pas forcément que la vendeuse vous donne les outils du magasin, ni qu'elle vous aime, mais au moins, minimum, vous attendez le respect. Et on ne s'attendrait pas à ce que la vendeuse vous dise « Mais attendez, je ne vous connais pas. Je ne vous respecterai que si je sais ce que vous valez. » C'est absurde, parce que précisément, le respect ne dépend pas de ce que l'on fait ou de ce que l'on ne fait pas. Le respect est inconditionnel. Il est lié au fait que nous portons en nous quelque chose qui ne se réduit pas à la conséquence de nos actes. Voilà pourquoi on respecte le coupable. Dans le vocabulaire religieux, c'est la distinction entre le péché et le pécheur. Dans le vocabulaire juridique, c'est la distinction entre l'acte et la personne. Les actes sont infiniment condamnables, mais la personne, on la respecte. Donc on ne va pas la torturer en prison, on va lui donner un avocat, on va lui permettre de se défendre, elle sera condamnée. Mais on essaie de poser la différence entre l'acte. C'est la base de la morale. Eh bien, la base de la morale, le respect, et littéralement respectare, c'est voir à travers, c'est cette capacité à porter un regard sur l'autre qui ne se réduit pas à la conséquence. Il y a quelque chose en lui qui n'est pas simplement l'être malfaisant qu'il est en train d'exercer en ce moment. Donc il y a une dimension profondément spirituelle déjà dans la notion de respect, avant même de parler de l'amour de l'adversaire ou de l'amour des ennemis, comme le fera le Christ. Il y a quelque chose qui, dans la notion de respect, est déjà une tâche qui est beaucoup demandée à l'être humain, parce que les êtres humains, ils sont sur un plan psychique, sur une idée de causalité. Voilà, non, moi je suis désolé, quelqu'un qui a fait des choses pareilles, hors de question, je ne le respecte pas. Et là, il faut bien distinguer ce qui relève de l'admiration ou du dégoût. On peut admirer quelqu'un, ou être dégoûté par quelqu'un par ce qu'il a fait. Et puis le respect qui est d'un autre sur un autre plan. Ce n'est pas la même chose. Lorsqu'on reproche à quelqu'un le mal qu'il a fait, c'est précisément parce qu'on présuppose en lui la capacité à faire le bien et d'avoir fait le mauvais choix. Parce que s'il était de toute façon, il était foncièrement mauvais, et dans ce cas-là, il n'y a pas à lui reprocher, il n'a fait qu'être ce qu'il est. Or, on lui reproche. Autrement dit, c'est précisément parce qu'on lui reproche qu'on doit le respecter. Donc, bien distinguer les deux. Et donc, cette dimension qui est non soumise à la causalité, c'est ce qui fait que, par exemple, sur un plan spirituel, sur un plan métaphysique, il s'agit de passer d'une joie qui est conditionnelle, comme c'est le cas habituellement dans notre vie ordinaire. Voilà, on m'annonce une bonne nouvelle, je suis content. On m'annonce des mauvaises nouvelles, je ne suis pas content. Ça, c'est la joie conditionnelle. Et puis, la possibilité, parce que nous sommes portés par une dimension qui transcende cette causalité-là, d'une joie inconditionnelle. Ça vous est peut-être déjà arrivé dans votre vie, il se passe rien de particulier, on vous a rien dit de particulier, mais tout d'un coup, vous êtes envahi d'une joie sans cause. Au cœur même, parfois, de situations parfois tragiques. Ça, c'est la nature fondamentale de cette dimension spirituelle. C'est le signe qu'on est dans un lien, lorsqu'on est face à quelque chose d'inconditionnel. De la même manière, nos amours sont généralement conditionnels. J'aime quelqu'un s'il est sympa avec moi, s'il fait des crasses, je ne l'aime plus, etc. Qu'est-ce que c'est de rencontrer une dimension qui transcende l'amour humain, spontané des êtres humains, qui est un amour inconditionnel? Et là, ça demande un saut métaphysique. Ça demande de rencontrer en nous une dimension qui n'est pas la dimension. Voilà pourquoi, lorsque Jésus, dans les évangiles, invite à cet amour-là, ses disciples lui disent très raisonnablement, c'est pas possible, ce que tu nous demandes n'est pas possible. Et la réponse de Jésus est très intéressante, elle dit, ce qui n'est pas possible aux hommes est possible à Dieu. Autrement dit, tu es amené à rencontrer quelque chose qui transcende tes capacités humaines pour être capable de rayonner, de manifester de cet amour-là. Bien évidemment que par tes propres forces, par toi-même, tu ne peux pas. Ou bien, si on se place dans une tradition qui ne fait pas référence à Dieu, comme dans le bouddhisme, rencontrer l'esprit d'éveil, rencontrer cette nature fondamentale de l'esprit, c'est découvrir cette nature de bodhicitta, c'est-à-dire cette compassion universelle qui anime fondamentalement notre être. Mais pour cela, il faut nettoyer le charbon qui recouvre l'or, lustrer, frotter, pour que l'or apparaisse. Il ne s'agit pas de créer de l'or, ce n'est pas nous qui créons de l'or. Il ne s'agit pas de devenir un sage. Il s'agit de permettre à cette nature fondamentale de l'être de réapparaître. Les mystiques persans, ils aiment bien l'image du miroir. Nous sommes comme un miroir qui n'est plus très propre et donc qui a du mal à réfléchir la lumière. Il le réfléchit quand même. C'est pour ça que c'est si bon de sentir l'amour de ses parents, de ses amis. Mais néanmoins, en même temps, on sent bien qu'il y a quelque chose dans nos amours qui ne sont pas à la hauteur de ce que devrait être l'amour. Il y a en nous des résistances, parfois notre cœur est sec. Et il est conditionnel, etc. Et là, il s'agit, en polissant le miroir, de permettre à ce que le miroir puisse refléter une lumière qu'on n'a pas eu besoin de créer. Ce n'est pas le miroir qui crée la lumière, mais il est capable à ce moment-là de refléter cette lumière. Vous connaissez cette parole de Cocteau qui dit « Tu dis que tu aimes les oiseaux, mais tu les mets en cage. Tu dis que tu aimes les fleurs, mais tu les arraches. Tu dis que tu aimes les chiens, mais tu les mets en laisse. Alors quand tu dis je t'aime, tu me fais peur. Eh bien, de la même manière, ici, il y a quelque chose qui, dans une perspective métaphysique, est amené à... Il y a un cheminement. Il y a un cheminement à faire, qui est un cheminement vertical. Que ce soit à travers une voie religieuse ou non, en tous les cas, il y a quelque chose de l'ordre d'un dépouillement nécessaire, d'un dépassement qui est nécessaire, qui n'est plus la volonté de se rechercher soi-même, hein, mais qui est au sens psychologique, au sens de l'individu, mais qui est la volonté de rencontrer ce mystère infini qui m'habite, hein, et qui n'est pas réductible à quoi que ce soit. Et même cette vie-là, cette vie incarnée dans ce corps-là, avec ses limites, n'est pas le tout de mon être. Et de ce point de vue-là, alors dans cette perspective-là, la mort n'apparaît plus comme étant une fin, mais comme un simple passage d'un état à un autre, avec un cheminement spirituel qui est amené à être continué. Voilà les trois visages. Est-ce que quelqu'un pourrait me rappeler juste l'heure pour que je puisse adapter ? On est à quoi ? Il est quelle heure là ? Comme ça, je sais combien de temps je vais... 17h15, très bien. Ces trois visages du cheminement d'une vie qui veut être à la hauteur d'elle-même. La contemplation, la voie de la contemplation, la voie de l'incarnation, et puis la réalisation, et puis la voie de l'élévation, la transcendance. Alors ces trois voies parfois ont été un petit peu opposées ou séparées dans la manière même dont les traditions spirituelles se sont présentées. Si on prend par exemple la voie de l'élévation, on va voir tout un tas d'enseignements spirituels qui vont insister sur la nécessité pour l'âme de s'échapper de ce monde, un monde dans lequel il est en exil. À l'instar, vous voyez, de l'allégorie de la caverne de Platon, où voilà, on est au fond d'une caverne, dans l'illusion, les ombres. Il faut se libérer de cette gangue pour sortir en dehors de la caverne, pour rencontrer quelque chose de plus lumineux. Et vous retrouvez ça très bien chez Platon, chez Baudelaire, l'âme qui est dans un état de spleen parce qu'il n'est pas dans son lieu. Il est comme l'âme est comme en exil dans ce monde de matière, dans ce monde de forme, dans ce monde de limites. Et il s'agit de s'arracher. Voilà pourquoi parfois on parle même négativement de ce monde. L'homme n'est pas de ce monde, de l'autre monde. Ou bien on parle en Inde du voile de la Maya, de l'illusion. Dans le bouddhisme, on parle du samsara. Donc il y a tout un discours qui se présente comme étant assez négatif de ce monde, avec la nécessité de s'arracher à lui pour découvrir autre chose, quelque chose qui le transcende. Et parfois, les enseignements spirituels se présentent à travers avec plus ou moins de nuances, dans cette direction-là. Et le rôle de l'art, à ce moment-là, c'est d'essayer, à travers des œuvres, de nous donner, ça a été beaucoup ça, l'art religieux, de nous donner le parfum des réalités d'en haut, de nous éveiller, à travers la beauté, à quelque chose qui transcende ce monde, de passer du visible à l'invisible, de l'immanent au transcendant. Tel est le sens, telle est la première vocation de l'art dit religieux. Donc une voie d'élévation. Dans une autre optique, certaines traditions vont présenter les choses un peu différemment. Ils vont dire, mais non, l'âme n'est pas du tout en exil dans ce monde, l'âme est en mission dans ce monde. Les dieux ne se sont pas trompés d'adresse en nous envoyant ici, il y a une raison. Et nous avons quelque chose à faire dans ce monde de matière, et nous avons à éclairer ce monde. Nous avons en rencontrant la matière, à la sublimer, à l'illuminer à travers la création, à travers le travail. Nous partons d'une matière qui est brute et nous allons lui donner une forme, à l'image du sculpteur. Nous allons lui donner un sens. Nous allons permettre au sens et au sensible de se rejoindre. Quelque chose qui était insignifiant va tout d'un coup prendre une signification. Et à travers notre action, nous allons sublimer ce monde, nous allons œuvrer dans le monde, et l'esprit a tout à gagner en se matérialisant, et la matière à se spiritualiser. Donc l'acte par lequel l'âme va rencontrer le monde, l'esprit va rencontrer la matière, c'est un acte à travers lequel la matière demande à être spiritualisée, et ça va être le fruit de l'œuvre. Puis l'esprit demande à s'incarner, à se matérialiser, et plus on veut aller loin vers les dimensions sur le plan spirituel, plus nous avons à nous incarner. Je vois qu'il y a une salle de yoga qui est prévue ici, et ça c'est quelque chose qui est très fort au yoga. Le paradoxe du yoga, c'est qu'on veut vous faire atteindre les cimes de l'esprit, mais pour cela, il va falloir rencontrer l'expérience la plus intime de votre corps. Et ça passe par le corps. Et les grands mystiques ont souvent un vocabulaire très très sensuel et très... c'est pas du tout dans la lune. Et, c'est vrai que c'est aussi des grands créateurs, que ce soit Sainte Thérèse d'Avila, que ce soit beaucoup de grands... c'est des fondateurs, ce sont des gens qui avaient les pieds sur terre. Et plus on veut aller haut, plus il faut avoir les pieds sur terre. Comme cette fameuse formule de Gandhi, plus un arbre veut monter haut, plus il doit planter ses racines profondément dans le sol. Plus on veut aller loin sur le plan spirituel, plus on a intérêt à rencontrer plus profondément tout ce qui relève des parts d'ombre de notre vie et de notre psyché. Ça, c'est aussi un point qui est important. Et donc, dans cette optique-là, le rôle de l'art, ça va être en travaillant la matière, en faisant, en œuvrant, toujours le mode de l'action ici, eh bien, d'abolir la séparation entre le sacré et le profane, de sacraliser ce monde, de le rendre lumineux. Et puis il y a une troisième manière de présenter les choses. La voie de la contemplation. Et là, il y a des spiritualités qui plutôt insistent sur cette dimension-là. Ils vont dire, mais non, pas du tout. La matière ne demande pas à être spiritualisée. Elle est déjà une réalité spirituelle. Le réel ne demande pas notre travail, notre œuvre. Elle est déjà une réalité spirituelle. Il faut sortir de l'obsession du faire pour accueillir ce qui est. Et à ce moment-là, le rôle de l'art n'est pas tant de faire. Là, on revient à notre personne de tout à l'heure. Le rôle de l'art, c'est de donner à voir ce qui est. Et là, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir une lecture sur ce qui est devenu un petit peu l'histoire de l'art. Parce que, vous voyez, si l'art était d'abord un art le plus souvent religieux, et qu'ensuite il a commencé à prendre pour sujet des réalités plus profanes, pour mettre en lumière toute son intensité, eh bien, on va voir au XXe siècle des types d'art qui peuvent être lus à travers le prisme de ce que je suis en train de vous expliquer sur cette voie contemplative. C'est-à-dire que on va tout d'un coup, à travers par exemple la peinture abstraite, vous amener à porter votre attention non pas sur ce que le dessin représente, mais à porter votre attention sur la couleur elle-même, sur le tracé lui-même, sur la texture elle-même. Autrement dit, ce qui n'était qu'un simple moyen, qu'on appelle le signifiant. Un moyen pour renvoyer vers un signifié. Qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Là, cette fois-ci, l'art va chercher à vous mettre en lumière, à faire ce face-à-face, à faire l'expérience de la puissance du signifiant lui-même, indépendamment de tout signifié. La texture, la couleur, qu'est-ce que c'est plonger son couleur dans un tableau de Klein, hein, ce fameux bleu Klein. Qu'est-ce que c'est faire l'expérience des simples formes, qu'elle soit géométrique ou pas d'ailleurs, sans forcément que ça représente quelque chose. Alors c'était un peu désarçonnant, vous voyez, mais il y avait quelque chose qui déjà... Et puis si on va un peu plus loin encore, et certains artistes sont allés jusqu'au bout de cette logique, sans craindre le ridicule, c'est que si le rôle de l'art, c'est simplement de donner à voir, alors à ce moment-là, on n'est pas obligé de créer, et là ça donne le ready-made. On met en scène quelque chose qui est déjà là. Mais on vous invite à le regarder alors que vous ne le regardiez pas. Le urinoir de Duchamp, vous êtes amené à le regarder non plus sous l'angle d'un urinoir dans lequel on va uriner, mais par contre dans sa puissance formelle. Et puis, certains sont allés encore plus loin, c'est ce qu'a fait Yves Klein, de faire une exposition sans œuvre. Alors, ça paraît être le comble de l'absurde, on a envie soit de tout fait de rire, soit de s'énerver, je sais pas. Et en même temps, vous sentez bien que du point de vue philosophique, il se passait quelque chose de très puissant. Alors, c'est pas une expérience à renouveler, mais néanmoins, il y a sur le plan philosophique quelque chose de très puissant parce que, précisément, il s'agit, au fond, pour l'artiste de nous dire, voilà, tu trouves qu'il n'y a rien, tu trouves qu'il n'y a rien à voir. Et tu attends de l'art de venir te distraire, te donner quelque chose à voir. Mais nous, moi, ce que je veux te dire, c'est que si tu vas au cœur de l'art, tu vas comprendre qu'il n'y a pas besoin qu'on te donne, qu'on te mette une cassette vidéo, qu'on te donne un objet devant toi. Il est là, le monde est là devant toi. Et le geste, le summum du geste artistique, c'est de vous donner à ne rien à voir, ce que vous croyez n'être rien, mais qui en fait est le monde. Ou bien, c'est ce que fait John Cage avec ces 6 minutes 33 là, de silence. Évidemment, tout le monde, beaucoup de gens se sont plaints, c'est n'importe quoi, etc. Bien évidemment, l'art contemporain. Mais en réalité, il y a. Voilà. Alors, autrement dit, le comble du geste artistique ici, c'est de s'abolir lui-même. L'art, en voulant aller jusqu'au bout de sa sincérité, de son authenticité, est conduit à sa propre abolition. Alors, comme c'est un petit peu. Comment dirais-je, trop radical, nous avons fort heureusement besoin que les artistes nous prennent par la main et nous hypnotisent à travers des œuvres qui captent notre attention, etc. Mais voilà, du point de vue spirituel, vous voyez, la voie de la contemplation pour aller jusque-là, vous voyez, c'est-à-dire que arrêtez d'être dans le faire, vous voyez, la voie de la contemplation, c'est posez-vous dans l'être, regardez, arrêtez de courir, pose-toi là, voilà. Là, tu vas voir qu'il y a... T'as pas besoin d'aller construire ta piscine, préparer le cocktail, etc. Tout est déjà là. Lao Tzu, ce qui n'est pas ici et maintenant n'est nulle part ailleurs. Donc toutes les spiritualités qui vont insister sur l'instant présent, sur une dimension plus contemplée, etc., vont prendre cette direction-là. Je vous ai dit, parfois, ces trois logiques se sont opposées. Par exemple, aujourd'hui, quelqu'un comme Luc Ferry, et certains philosophes aujourd'hui qui se moquent beaucoup des philosophies de l'instant présent, des philosophies contemplatives, etc., cette forme de spiritualité qui a gagné certains courants du développement personnel, parce qu'ils disent, non, mais l'homme, c'est un être d'action, c'est un être historique, il doit agir dans l'histoire, c'est quoi que cette philosophie de l'instant présent, etc. On peut rentrer dans ce genre de position, mais il me semble que, à l'instar de ce à quoi nous invite Pascal, l'erreur, c'est l'oubli de la vérité contraire. Et que nous avons à tenir ensemble ces trois dimensions. Parce qu'en fait, notre existence est tissée par ces trois dimensions, qui ne doivent pas être séparées. C'est lorsque toute vision spirituelle, toute approche, qu'elle soit artistique, spirituelle, qui voudrait faire l'impasse d'une de ces trois dimensions, passerait à côté de quelque chose au plan spirituel, à mon avis. Par exemple, une spiritualité complètement désincarnée, qui serait simplement dans le retrait, dans la contemplation, mais qui se désengagerait de ce qui relève de notre responsabilité de citoyen, notre responsabilité dans ce monde, de ce qui doit œuvrer dans ce monde, etc., il me semble qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une fausse route. Donc, tenir les trois ensemble, c'est d'une certaine manière, c'est le sens d'une histoire que m'a raconté un jour mon père. C'est un juge qui se trouve face à deux personnes qui sont en conflit. Et le juge demande au premier de lui donner sa version. Et le premier lui donne sa version, il explique pourquoi il trouve que c'est comme ça que ça devrait être partagé, etc. Et le juge l'écoute très attentivement et lui dit « Tu as raison. » Ensuite, il dit « Bon, bah, maintenant c'est votre tour, donnez-moi votre version. » Le deuxième donne sa version, il explique pourquoi en fait, c'est lui qui a raison, etc. Et là, le juge lui dit « Tu as raison. » Et là, à ce moment-là, il y a la femme du juge qui était à côté, il lui frappe sur l'épaule, il dit « Mais qu'est-ce que tu racontes ?» Il dit deux choses qui ne font pas dans le même sens, tu donnes raison aux deux. Et là, le juge regarde son épouse et lui dit « Tu as raison. » Et je crois que dans ce dépassement du principe de contradiction, finalement, de non-contradiction, il y a quelque chose dans la complexité de notre existence qui demande à prendre en compte ces trois dimensions qui, d'ailleurs, peuvent, à certains degrés, être plus importants à certains moments de notre vie que d'autres. Lorsqu'on est, on a 20, 30 ans, on pourrait être testostérone, ou je ne sais quoi, et puis qu'on a envie de construire, fonder, c'est pas pareil que lorsqu'on est dans les derniers moments de sa vie. Lorsque, vous voyez, il y a des temps dans notre existence dans lesquels on laisse un peu plus de place à la contemplation, un peu plus de place à l'action, et on essaie de trouver un équilibre entre ces différentes dimensions. Mais en tous les cas, Ces trois dimensions sont appelées à habiter notre existence. Ces trois visages, ou on va dire trois ailes, parce que en tout cas, ces trois visages de la vie intérieure, on les retrouve à certains égards dans la pensée indienne, à travers trois voies que les hindous distinguent. Et je voudrais l'évoquer avec vous parce que pour moi, ça a été très très éclairant, même dans la manière de comprendre le phénomène religieux. Pour les hindous, il y a trois grandes voies, et le mot voie chez les hindous, c'est yoga. Donc pour nous, yoga, c'est les exercices de hatha yoga, etc. Mais en fait, le mot yoga, ça signifie le chemin, la voie, et il y a plein de formes de yoga, de voie. Et parmi ces multiples voies, il y en a trois qu'on distingue particulièrement. Il y a d'abord ce que les hindous appellent la bhakti yoga, qui signifie littéralement la voie de la dévotion, dans lequel la conscience humaine, la conscience humaine entre en relation avec un principe supérieur, qui se représente généralement comme une divinité, un principe divin, une altérité radicale vis-à-vis duquel il a une certaine dévotion, une certaine adoration. C'est pour ça que la majorité des hindous ont chez eux un autel, ils prient, ils font toutes leurs pratiques et de pratiques dévotionnelles. Et par la bhakti yoga est une des voies pour les hindous qui est la plus adaptée à la majorité de l'humanité, dans lequel l'homme tente de tracer ce cheminement métaphysique dans cette humilité et cette dévotion totale à un principe divin. Et par volonté, voilà, l'homme devenant ce qu'il contemple, comme dirait Plotin, eh bien, en contemplant ce principe divin auréolé de toute la perfection qu'on attend, eh bien, l'homme est amené à s'accomplir, à se réaliser, à rayonner et à refléter toutes ces qualités divines qu'il projette au dehors. Alors, c'est là où le mot projeter là, pourrait être discuté. En tous les cas, que ce soit une projection ou que ce soit un reflet, en tous les cas, quelque chose qui va se faire dans le cheminement, dans la relation. Et voilà pourquoi dans la voie de la bhakti yoga, eh bien, ce qui correspond à ce que nous on appelle un comportement religieux, la dévotion tient une place importante, les rituels tiennent une place importante, la foi dans un principe supérieur tient une place importante. Ça, c'est la bhakti yoga. Et puis, il y a une deuxième voie, qui est le karma yoga, qui signifie littéralement la voie de l'action. Où là, cette fois-ci, c'est pas tant par la dévotion, par les pratiques rituelles, c'est par le service qu'on rend au monde, le dévouement total que l'être humain va avoir pour son prochain, qui est une écharpe du divin sur Terre, que l'être humain tente de se réaliser. Alors, les deux peuvent être combinés. Par exemple, chez quelqu'un comme Mère Teresa, il y a à la fois une dimension dévotionnelle, il y a une dimension d'action dans le monde, d'engagement dans le monde. Alors attention, le karma yoga, ce n'est pas simplement « j'ai fait quelques bonnes actions ». Le karma yoga, c'est une voie dans laquelle toute sa vie est au service du monde. Et pour les hindous, ce n'est pas forcément quelqu'un qui prie beaucoup, qui est dans la dévotion, etc. Mais par contre, c'est un chemin par lequel il peut réaliser ces qualités morales et spirituelles qu'on attend d'un homme accompli. Et puis, il y a une troisième voie, que les hindous appellent le jnana yoga, qui littéralement, c'est pourrait se traduire la voie de la connaissance. Où là, cette fois-ci, on n'est pas dans l'action. C'est une voie méditative. C'est pas forcément une voie dévotionnelle, généralement pas. Il n'y a pas forcément, d'ailleurs, la référence à un principe divin, un absolu divin personnel. Il s'agit d'observer la nature de l'esprit, son fonctionnement. Ça se rapproche beaucoup de la méditation telle qu'on commence à le découvrir en Occident. Et d'aller vers la source de celui qui regarde. De passer du spectacle de ces événements psychiques à ce qui est l'œil qui regarde, la source de celui qui observe ces choses. Et donc, il y a quelque chose d'une volonté, c'est ce qu'ils appellent une voie plus directe, une voie directe de la conscience qui va se retourner pour, c'est une image, bien évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe, mais qui va se retourner pour aller à la source de la conscience, du phénomène de la conscience. Et là, on n'est pas forcément dans une voie dévotionnelle, on n'est pas forcément... Et pour les hindous, les êtres humains peuvent avoir une sensibilité plus grande à la voie du bhakti yoga, ou bien la voie du karma yoga, ou la voie du... Il y a des sensibilités spirituelles différentes. Et la même voie n'est pas adaptée à l'un comme à l'autre. Et selon notre sensibilité, voilà. Mais généralement, ce qu'ils disent, c'est que la voie du jnana yoga est la voie la plus directe, puisqu'elle passe par aucun... Voilà, elle est une voie purement contemplative, mais c'est aussi la voie la plus difficile et la moins adaptée à la majorité des gens. Le bhakti yoga, c'est celui qui... Alors nous, les Occidentaux, ce qui se passe dans notre histoire, c'est que la référence à un principe divin pour beaucoup d'Occidentaux, c'est quelque chose qui ne parle plus. Beaucoup de personnes ont perdu cette relation dévotionnelle à un principe transcendant. À l'inverse, il y a eu chez les Occidentaux une obsession de l'action. Alors, pas forcément l'action en vue du service au monde, malheureusement, mais en tous les cas, en tout cas, l'idée, cette voie de l'action, dès qu'elle est, elle s'incarne dans cette qualité d'être dont je parlais tout à l'heure, est une voie qui peut parler aux Occidentaux, ou bien la voie méditative. Mais là encore, c'est intéressant de voir que même si la méditation a parfois été est un peu encore à la mode aujourd'hui, dans certains milieux en tous les cas, très peu de gens vont très loin là-dedans. Il faut un petit peu de méditation comme ça, mais encore une fois, de la même manière que le karma yoga, c'est pas faire quelques bonnes actions, et puis voilà, le jnana yoga, c'est pas faire de temps en temps une petite séance de méditation. C'est une voie vraiment très, très, très prudente, qui est un engagement d'une vie. Et donc... souvent, ça reste quelque chose d'assez superficiel. Et donc, voilà, je ne sais pas pour l'homme contemporain en Occident, comment va se tracer ce chemin. Ce qui est sûr, c'est que, et c'est ce que j'ai essayé de vous montrer au début de mon intervention, c'est que cela passe, à mon avis, lorsqu'on n'a pas une sensibilité religieuse, une éducation religieuse, ou un grand intérêt pour la chose religieuse. Ça passe d'abord, je crois, par la reprise de contact avec la vie en nous, avec une qualité de présence. Et tout à l'heure, je vous parlais d'arrêter la machine. Et c'est vrai que arrêter la machine, c'est d'abord rencontrer sa fatigue. Et avant même de vouloir contempler, il faut parfois d'abord se reposer. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs. Lorsqu'on arrête la machine, on se rend compte à quel point ça nous a épuisé. Et donc, retrouver un certain repos. Et une fois qu'on est suffisamment reposé, à ce moment-là, on peut à nouveau être capable d'attention, de concentration sur quelque chose. Voilà, j'ai beaucoup parlé. J'aimerais vous écouter. Quelques remarques et peut-être quelques questions. Et si je peux, non pas réagir, mais répondre à votre interrogation ou ce que vous dites, j'en serais que plus heureux. Merci beaucoup de la qualité de votre attention. Et...
Oui. En venant, je me posais la question de l'étymologie du mot philosophie. Donc je crois que le mot Sophie, c'est Sophia. Et d'ailleurs, la chouette, c'est le symbole de la sagesse. Et quelle est l'étymologie du mot philo ?
L'amour. Aimer, c'est l'amour de la sagesse. C'est l'amour de la sagesse. Alors, la philosophie comme amour de la sagesse, c'est un des visages de la philosophie. C'était son visage originel. Mais il y a beaucoup de philosophes aujourd'hui qui ne définiraient pas la philosophie comme ça. Ils ont gardé l'étiquette parce que c'est voilà. Mais par contre, pour eux, la philosophie c'est autre chose. C'est pas forcément rechercher la sagesse. Ils ne croient pas forcément d'ailleurs dans l'idée de sagesse. Et ça, c'est lié à l'histoire de l'Occident. À partir du moment où la figure du sage n'est plus l'horizon d'une civilisation comme c'était le cas chez les Grecs, à partir du moment où la figure du saint n'est plus l'horizon d'une civilisation comme c'était le cas à l'époque médiévale, et que c'est la figure de l'intellectuel qui est l'horizon de la civilisation, en tout cas à partir du XVIIIe siècle, et qui va être toute l'école républicaine, tout le projet de l'école, c'est de faire de vous d'abord un intellectuel, un savant, la figure du savant et de l'intellectuel, qui va être l'horizon de l'Occident et de son éducation, eh bien, il n'est pas étonnant que la perspective de la sagesse, et c'est lié au fait aussi que la philosophie, lorsqu'elle a voulu rompre ses liens avec la religion, et ce qui était souhaitable, parce que c'était conforme à ce qui était son origine, de vouloir développer une pensée autonome. Néanmoins, la philosophie va garder l'héritage intellectuel, mais elle va se dépouiller de tout ce qui relevait des pratiques spirituelles du christianisme. Et donc, voilà pourquoi le philosophe, à partir du XVIIIe siècle, va devenir quasi exclusivement un intellectuel. Intelligent, profond, qui peut dire des choses intéressantes, mais de loin pas un sage, ni forcément quelqu'un qui aspire à la sagesse. N'ayant pas de pratique spirituelle, il n'y a pas d'expérience spirituelle. N'ayant pas d'expérience spirituelle, l'idée de spiritualité et de sagesse devient de plus en plus éloignée. Moi, j'ai fait des études de philo, je peux vous dire que dans mes études, le mot de spiritualité n'apparaît jamais. Et le fait que je l'utilise me met en porte-à-faux vis-à-vis de beaucoup de mes collègues. C'est même un gros mot.
Pareil avec Jules Ferry.
Oui,
non pas Jules Ferry, Luc Ferry. Ah, lui, il a vraiment une définition de la philosophie comme quoi un moyen de savoir, d'intellect.
Alors, les deux autres visages, c'est une discipline qui cherche à interroger la question de la condition humaine et de son sens. Ça, c'est un autre visage de la philosophie. Il y a un troisième sens de la philosophie, c'est une discipline qui interroge les fondements, c'est-à-dire qui interroge les fondements de nos croyances, de nos opinions, de nos sciences. Et ça, c'est une dimension assez décapante de la philosophie. C'est ce qui la rend éminemment dangereuse socialement, parce qu'une société, elle a plein de certitudes, plein de sentiments d'évidence, pas seulement les sociétés religieuses, mais même la société d'aujourd'hui. Et le philosophe, lui, son travail, c'est de venir mettre en question nos évidences et nos certitudes, ce qui peut provoquer des remous. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Socrate a été tué. Et voilà pourquoi la philosophie est toujours une force qui peut être assez disruptive, en tous les cas, qui peut être mise à mal. Alors, soit on est un petit philosophe mondain, médiatiquement compatible, institutionnellement compatible, etc. Mais à ce moment-là, on trahit ce qu'est l'esprit de la philo. Soit vous voulez correspondre à l'esprit de la philo, mais à ce moment-là, vous ne serez pas médiatique, parce que ce sont beaucoup de philosophes, ils ne sont pas médiatiques. Vous serez pointé du doigt comme quelqu'un de dangereux, d'hérétique, de complotiste, de tout ce que vous voulez, en tous les cas. Comment ? Non. Et puis la troisième chose, la quatrième dimension de la philosophie, c'est le quatrième visage, vous avez en tête là. Ah oui, c'est le philosophe et celui qui doit imaginer un autre monde, pas simplement celui qui fait le diagnostic d'un état ou qui interroge les fondements, mais celui qui doit essayer de penser comment pourrait être le monde. Et là, c'est la dimension de proposition, d'imagination. Ils doivent essayer de penser des alternatives au monde tel qu'il est. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est précieux et nécessaire. Parce que voilà, les sociétés ont besoin de se renouveler.
C'est pas très bien vu en ce moment.
Oui, et en même temps, on l'appelle de tous nos voeux. Parce que comme on vit particulièrement une époque qui continue à vivre sur des modèles qui datent en gros de la société industrielle, modèle d'organisation sociale, modèle politique, modèle économique. On a besoin des philosophes pour essayer de penser comment pourrait être un monde. Donc, d'une certaine manière, on les attend, on les appelle. Ces philosophes pour essayer d'imaginer ce que pourrait être un monde qui obéirait selon une autre logique et qui soit tenable.
C'est qui hein?
C'est moi déjà.
C'est vous.
Non, c'est la jeunesse. Et là, ça me permet d'important. Vous voyez, dans une situation, je crois qu'à toutes les situations d'ailleurs d'histoire, mais peut-être encore plus à notre époque, nous avons besoin de gens qui soient des infiltrés, C'est-à-dire des gens qui sont dans l'institution, dans le système, qui essayent de faire de leur mieux pour améliorer les choses, pour réformer, etc. Et puis on a besoin de gens qui sont des exfiltrés. C'est-à-dire des gens qui, un peu comme ici, vont trouver un autre espace pour essayer d'organiser les choses autrement, d'utiliser un autre modèle. C'était une différence qu'on voyait déjà, c'est entre les épicuriens et les stoïciens. Les stoïciens, pour eux, fallait rester dans la cité pour essayer d'améliorer les choses du mieux qu'on pouvait, fallait réformer. Alors que les épicuriens disaient non, les gens sont complètement fous. Il faut trouver un autre espace pour vivre selon nos valeurs. Et là, lui, c'était plus une logique de réformer. Et je crois que dans notre société, on a vraiment aujourd'hui besoin des deux. À la fois des gens qui sont infiltrés et à la fois des gens qui sont exfiltrés. Simplement, le système est tellement pourri dans son fonctionnement et dans ses blocages que je pense que le salut viendra des exfiltrés. Il faut qu'il y ait des infiltrés, mais il faut avoir un regard sur ce qui se fait en dehors et il se passe des choses extraordinaires en dehors. Il y a vraiment des projets qui se montrent, des alternatives qui se proposent pour toutes les différentes problématiques que nous connaissons sur le plan écologique, sur le plan énergétique. Et le plus souvent, c'est qu'on ne les connaît pas. Ils ne sont pas assez mis en lumière et on ne les met pas en pratique. Et donc, on a fausse, en tout cas, médiatiquement, se véhicule l'idée qu'on a faussement l'idée qu'on est dans une situation bloquée où, certes, comme on fait, ce n'est pas terrible, mais on n'a pas de solution. Et en réalité, et moi, j'ai rencontré beaucoup de gens ces derniers mois qui m'ont prouvé et montré qu'on avait plein de solutions. Et simplement, ils ne sont pas médiatisés, etc. Et une des raisons pour lesquelles ils ne sont pas médiatisés, c'est que ça vient entrer en conflit avec ceux qui ont les intérêts actuels du système tel qu'il fonctionne. Alors, pour vous ne donner qu'un exemple, je donnerai l'exemple de Gunther Pauli, ce qu'il appelle l'économie bleue. Si vous ne connaissez pas son nom, ce n'est pas normal, ça ne devrait pas être normal, vous devriez tous connaître son nom. Et les centaines de projets à travers le monde qu'il a montés, il a plus de 250 ingénieurs qui travaillent avec lui à travers le monde, Gunther Pauli, l'économie bleue, vous pouvez regarder, Pauli, c'est P-A-U-L-I. Et c'est pas seulement, c'est un chef d'entreprise, hein. Et ce n'est pas simplement un théoricien d'utopie, c'est quelqu'un qui a réalisé 40 000 projets dans le monde de l'agriculture, dans le monde industriel. Et il montre qu'on est capable, en s'inspirant du biomimétisme, en s'inspirant de la nature, c'est-à-dire dans la nature, il n'y a pas de déchets, et en concurrençant le capitalisme sur son propre terrain, c'est-à-dire en faisant que ce qui est bon pour la planète et bon pour notre santé soit moins cher que ce qui est mauvais pour la planète et mauvais pour notre santé. Alors qu'actuellement, beaucoup de choses dites un peu écologiques, bio, sont souvent plus chères. Et Gunther Pauli a compris, au départ, avec de ce modèle-là, il a compris que ça ne pouvait pas, transformer le monde comme ça, il fallait absolument trouver des modèles économiques, c'est son côté chef d'entreprise, dans lequel on va concurrencer le capitalisme sur son propre terrain. Et voilà, il y a plein d'idées, mais il n'y a pas que lui. En fait, j'ai découvert qu'il y en a beaucoup d'autres, mais voilà un de ceux qui sont... Et donc, le rôle du philosophe, ça va être d'essayer d'imaginer, de penser. Qu'est-ce que c'est un monde dans lequel il y a une raréfaction de l'emploi, parce que l'intelligence artificielle tous les principes de développement de l'automatisme va remplacer une grande partie de l'emploi, y compris dans le tertiaire, surtout dans le tertiaire. Ça peut être une mauvaise nouvelle, parce que ça fera beaucoup plus de chômeurs, et donc beaucoup plus de violence, ou plus de laisser pour compte, ou bien on peut essayer de repenser, c'est ce qu'ont fait certains philosophes, notamment français, je pense à certains André Lorz, comment repenser une société dans un monde dans lequel le job en tant qu'emploi s'est raréfié. Comment repenser le monde du travail et donc la distribution des richesses dans une société de ce mode-là. Et donc ça peut donner quelque chose de stimulant. C'était le grand rêve de Marx, que le développement des machines conduise à éliminer tous les travaux pénibles et débiles et aliénants pour permettre aux hommes, cette fois-ci, d'engager leur énergie, leur force créative dans quelque chose qui ne soit pas aliénant. Est-ce qu'on doit se plaindre que les machines remplacent les caissières ou est-ce qu'on doit s'en réjouir? Eh bien, peut-être qu'on pourrait s'en réjouir pour que ces femmes puissent faire des choses qui soient plus épanouissantes pour elles que simplement passer des études. Mais ce type de transition, dans un premier temps, passe par une phase d'accouchement qui est très douloureuse.
Oui. À la fin du 19e, Victor Hugo disait « Le jour où on a tourné le dos au bien-être spirituel pour se diriger vers le bien-être matériel, on a fait fausse route. » Quand quand Dalai Lama était à Strasbourg en 2007, à une question sur le pouvoir de l'argent, il disait, vous savez, le nombre de milliardaires qui viennent me voir et qui sont malheureux. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Bah, c'est ce que nous ont toujours dit les sagesses depuis longtemps. Simplement, on a du mal à croire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est inscrit de manière assez viscérale dans notre être, c'est que le bien-être, le bonheur viendra toujours avec plus de sécurité, plus de confort. Et on a du mal à croire que ce soit pas le cas. Ben, Épicure, dont je parlais tout à l'heure, c'est le cœur de son enseignement. Et il invite ses disciples à faire l'expérience de la sobriété pour voir ce que ça fait. Et de se rendre compte, et vous l'avez peut-être fait, voilà, vous êtes parti dormir sous la tente, en bivouac, quelques jours. C'est vrai qu'il y a quelque chose de départ qu'on n'a pas l'habitude, qui est un peu inconfortable. On n'a pas tout le confort qu'on a à la maison. Mais tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a une saveur, tout prend une saveur. Ce qu'on mange a une saveur, l'air qu'on respire, se réveiller le matin, voir le soleil se lever. Et d'une certaine manière, il y a une intensification de notre expérience dans cette sobriété. Cela étant dit, là encore, je pense que le problème, ce n'est pas d'avoir beaucoup ou d'avoir peu, la question c'est qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a? Et qu'est-ce qui relève de notre mission de vie? Certains sont appelés à être des points de passage de l'argent ou des biens. De la même manière que certains sont à être le point de passage du pouvoir. Donc, le pouvoir en soi ou l'argent en soi n'est pas un problème, c'est on le met au service de quoi? Si on le met véritablement au service de l'humanité, alors on joue un rôle très précieux pour la société. Si le pouvoir on le met au service, c'est toujours un rôle très précieux pour la société. Donc, cette philosophie de la sobriété ou cette sagesse ne doit pas entrer en guerre contre en soi le pouvoir ou l'argent, mais toujours se relier à ce qui fait l'orientation, le sens de notre action. Oui. Non mais allez-y.
En fait, c'était une question par rapport au rôle de l'artiste aujourd'hui, même au sein d'un projet ou dans notre entourage, on rencontre beaucoup de personnes qui, en fait, à travers leur art, deviennent quelque peu des thérapeutes. Et en fait, ça me questionne aussi de savoir ton point de vue par rapport à ça, dans la mesure où, finalement, l'artiste aujourd'hui est comme celui qui peut ramener l'autre, justement, à cette contemplation, à ce rapport à soi, à ce rapport à quelque chose d'élevé, à travers le corps, à travers le contexte dans lequel il évolue, le lien, comment on va être avec l'autre, comment on est avec soi. Enfin, et voilà, enfin, cette exploration entre l'art et la thérapie, et
ce lien,
tout ce que
tu nous exprimes. Oui. Alors, d'abord, sa simple existence, sans même parler de son travail, sa simple existence d'intermittent du spectacle ou d'inutile, au sens où on a l'habitude de réduire l'utilité, est déjà quelque chose qui est très précieux pour la société. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font rien, des tableaux, des peintures. Là où tout le monde est obsédé par qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu... Là, il y a quelque chose de gens qui occupent une autre fonction dans la société, c'est symboliser autre chose, une autre manière. Et donc, de nous renvoyer au miroir, mais finalement, voilà, qu'est-ce que moi, dans ma vie, je crée, qu'est-ce que j'exprime? Et on voit bien qu'on est souvent coupé de nos forces créatives, parce qu'on est dans la gestion, dans la reproduction, dans l'efficacité. Et donc, ça, déjà, c'est ça. Ensuite, l'artiste, c'est ce lien qui tente de faire le passage entre l'inexprimé et l'exprimé, le sans-forme et la forme. Et notre vie intérieure est appelée à traduire ce passage. Et ce que l'artiste va manifester, c'est la possibilité de ce passage. C'est la possibilité que ce qui est au-dedans puisse rejaillir au-dehors, à différents niveaux d'ailleurs. Et ensuite, l'acte par lequel quelqu'un, face à une toile blanche, face à une feuille, va commencer à écrire quelques mots, atelier d'écriture, ou bien, il va se rendre compte qu'il a en lui quelque chose qu'il ne soupçonnait pas.
On a tous fait cette expérience. On leur dit, voilà, vous prenez une feuille blanche, vous m'écrivez quelque chose sur la jalousie. On dit pas, mais qu'est-ce que je veux dire? Et puis en fait, si vous jouez le jeu, vous allez écrire une page et demie, et puis vous vous rendez compte qu'il y avait en vous des choses que vous ne soupçonniez pas. Montaigne, c'est une très belle, formule, il dit, il faut essayer sa pensée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser pour écrire, il faut écrire pour penser. C'est-à-dire que c'est en écrivant, c'est en faisant, c'est en créant qu'on découvre la notre puissance d'être, en fait. Et donc, ça ne m'étonne pas du tout que l'art puisse être une forme de thérapie. Il tente de faire le lien, le pont entre le visible et l'invisible. C'est notre destin d'être des hommes ponts, de passer de l'un à l'autre, de l'invisible au visible, expression, et puis du visible à l'invisible, c'est-à-dire de l'immanent vers le transcendant. Et c'est cette circulation qui est précieuse.
Avec ce que vous disiez, il faut essayer sa pensée, c'est exactement ça. Ça rebondit ce que j'ai pu expérimenter avec ces enfants, simplement partant d'une histoire, c'est une question de la différence, en partant d'une histoire de Mingala, je crois, et la manière qu'ils ont eu, extrêmement habile, et vraiment spontanée, naturelle, bon, les Noirs disent que ce sont des philosophes en l'air, c'est vrai, d'exprimer, et ils ont. Comment, au fur et à mesure qu'il s'exprimait, il crée en même temps le cheminement de la pensée. Ça, c'était assez grand. J'ai pu faire une bonne fois, c'était un grand compliment, puis après, c'était du coup.
Oui, moi, j'enseigne les enfants de 17 ans, et c'est vrai qu'il y a parfois un travail qui consiste à renouer avec cette fraîcheur de l'enfance qui s'étonne. Aristote disait l'étonnement est le point de départ de la philosophie. C'est vrai qu'à d'abord, il faut s'étonner. L'imbécile, dit Schopenhauer, est celui pour qui tout est évident. Et plus on commence à d'un coup à observer, à regarder, en disant, pourquoi le soleil se lève? Pourquoi je crois qu'il va se lever à nouveau à l'est? Pourquoi est-ce que... Et les enfants se posent des questions, c'est ça qui est très étonnant, très métaphysique souvent. Hein. Pas simplement quel jouet je vais à Noël, qu'est-ce qu'on mange, etc. Moi, je me souviens, par exemple, d'un petit enfant qui m'a demandé « C'est quoi qui a existé en premier? C'est l'espace ou c'est Dieu ?» Il avait 5 ans et demi. C'est-à-dire qu'on ne s'imagine pas ce degré d'abstraction chez un enfant. Je me finissais par demander « Mais s'il comprend lui-même la puissance de la question qu'il est en train de poser ?» Je suis pas très à l'aise avec votre question. C'est-à-dire que j'ai du mal à y répondre. Alors parfois la réponse qu'on donne dans ces cas-là, c'est votre question est trop profonde pour l'abîmer par une réponse. Je pense que le mal nous fascine parce qu'il fait écho au mal en nous. Vous voyez, il y a quelque chose en nous qui est... Vous voyez, c'est très dur de créer. C'est facile de détruire. Et vous voyez, on n'a pas décidé de vivre, mais on peut décider de mourir. C'est pas nous qui avons choisi de venir au monde, mais par contre, on peut décider d'en sortir. Et il y a cette tentation pour l'être humain, presque dans une forme d'affront à ce dont on n'est pas l'origine, eh bien de vouloir être l'origine. Et donc, je crois qu'il y a une fascination en nous pour le mal aussi. Il y a à la fois Eros en nous, le principe de vie, la volonté, mais il y a aussi Thanatos. Il y a des puissances d'autodestruction en nous, par volonté d'affirmation de soi. On voit ça dans le Dostoïevski, dans c'est dans, c'est pas dans le frère Karamazov, c'est dans l'idiot, je crois, dans lequel il y a un personnage, Kirillov, qui va dire, voilà, moi je vais me suicider, pas parce que je suis déprimé, pas du tout, mais pour affirmer la toute-puissance de mon vouloir. Parce que quand vous avez tout nié, la société, la famille, la raison, tout, les autres, vous êtes dans votre seul, dans votre coin, la dernière chose que vous n'avez pas supprimée, c'est votre propre vie. Et donc, lorsque notre liberté, comme volonté de puissance, va jusqu'au bout de sa logique, qui est toujours par opposition à, et bien à ce moment-là, sa logique finale, c'est ça. Alors, Kirillov est un personnage de roman, personne ne va jusqu'à cette extrémité-là, mais souvent les adolescents s'arrêtent à claquer une porte, et puis voilà. Mais néanmoins, il y a quelque chose comme ça qui est peut-être humain. Alors, certains l'ont fait, hein. Par exemple, il y a un certain René Crevel, un surréaliste, qui s'est suicidé, il a écrit une lettre en disant voilà, je me suicide, exactement comme Kirillov. Pas parce que je suis déprimé, etc., mais pour exprimer totalement ma puissance de la toute-puissance de ma liberté. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand quelqu'un veut dire « Regarde, je vais te prouver que je suis libre », ce qu'il va faire, c'est transgresser une règle. Comme si l'essence de la liberté était dans la transgression. Ça, c'est immature de penser ça. Et ça nous habite, ça. Et on est fasciné par le mal parce qu'il est... C'est trop fort. C'est trop fort.
Mais je pense qu'on n'est pas tous fascinés par le mal et pas par les mêmes
mots. Non, mais en fait, on porte toutes les potentialités contraires. On porte ses potentialités contraires. Et comme le disait, je crois que c'est une histoire d'Amérindienne, un grand-père qui dit à son fils, mais quel est, on a deux loups, l'un qui se nourrit, voilà, chose négative, l'autre qui se nourrit, chose positive, et l'enfant qui dit, mais lequel des deux est le plus fort, c'est lequel qui va gagner, et puis, celui qu'on nourrit. Voilà, celui qu'on... Et c'est clair qu'en tout cas, nous portons cela en nous. Alors il y a une autre image du mal que je trouve intéressante. C'est un poète persan qui met en scène ça. Il met en scène la figure d'Iblis, qui est le diable. Iblis va croiser Moïse. Et Moïse lui demande, mais pourquoi tu fais le mal comme ça? Pourquoi tu n'es pas fatigué de sentir la colère de Dieu contre toi? Et là, à ce moment-là, Iblis répond à Moïse, toi, tu regardes la flèche que m'envoie l'archer. Moi, je regarde l'œil de l'archer. L'archer, c'est Dieu. Toi, tu regardes les flèches qui m'envoient parce que je fais mal. Mais moi, je regarde l'œil de l'archer. C'est-à-dire que quand je fais mes bêtises, quand je fais... j'attire l'attention. Et j'attire l'attention de Dieu, en l'occurrence. Alors, chez l'enfant, parfois, c'est j'attire l'attention de mes parents. Ouais, les enfants qui ont des parents un peu absents, etc., parfois, ils ne trouvent rien d'autre mieux que les bêtises. Pour capter, au moins, mes parents sont avec moi. Quand je suis malade, on est aux petits soins, aux petits oignons avec moi, donc finalement, j'ai un certain intérêt. Comment ? Les adultes. Et donc, ça aussi, en psychologie, on tire des avantages à notre propre défense. Et tant qu'on n'a pas compris les avantages qu'on en tire, c'est pour ça que c'est une très bonne question que vous posez. Pourquoi est-ce que... Oui.
Une petite question en réflexion en réponse à la question de madame sur l'hypnose vis-à-vis du mal. Peut-être c'est le fait aussi de ne pas reconnaître en soi le mal, et du coup il y a une sorte d'hypnose qui s'installe à l'extérieur pour qu'elle rentre en résonance et venir toucher au fond de nous ce qui n'a pas été reconnu.
Oui, certainement, je partagerai. Alors moi, quand je l'ai évoqué dans ma conférence, c'était aussi le fait que ça occupe énormément de temps et d'énergie que de lutter contre les malfaisants ou les injustices de ce monde. Et notre être s'épuise à ça, si il ne va pas régulièrement se ressourcer. Alors, dans le cas de Sœur Emmanuelle, par exemple, vous savez, cette partie vive parmi les chiffonniers du Caire, elle le disait. Si je n'allais pas tous les matins, elle quittait... Elle quittait les ordures, là, ce constat d'ordures, vers 4h du matin pour aller pour faire 2 heures de bus pour aller faire la communier avec ses sœurs dans un monastère dans le Caire, pour ensuite revenir à 8h du matin. Eh bien, Elle dit, je ne peux pas tenir. Mais voilà. Donc, chacun trouver ses lieux de lumière. Mais en tous les cas, il ne faut pas se laisser totalement absorber. Et je vous le dis, parce que moi-même, j'en ai fait l'expérience. Hein. En particulier ces deux dernières années. Et j'ai mis du temps à prendre conscience de ça. J'ai mis du temps à prendre conscience que j'étais en train de m'épuiser et de perdre ma force vitale, en fait, à force de trop regarder et d'essayer de résister à ce qui me semblait être regrettable. Alors, je crois qu'il y a quelque chose un petit peu.
Oui, vous avez aussi la possibilité, Reza a acheté des livres, et vous avez la possibilité de les acheter et de les faire dédicacer. Donc, on va approcher la table. C'est peut-être un petit moment. Là, merci.